Okay, we're going to begin. Good afternoon, I'm Harley Schlanger, and on behalf of LaRouche Political Action...
Bonsoir, je suis Harley Schlanger, et au nom du LaRouche PAC, je vous souhaite la bienvenue dans cet événement, et également pour tous ceux qui nous suivent par Internet. Le webcast d'aujourd'hui est extrêmement important. L'effondrement financier s'étend et s'accélère, et on entend tout le temps dire « Personne ne pouvait savoir que ça allait arriver. » Mais cela est complètement faux. Et un autre des refrains qu'on entend, c'est « On envoie des milliards dans le système financier, mais personne ne sait ce qui va en ressortir. » C'est faux aussi. Donc, Lyndon LaRouche, non seulement a prévu cet effondrement, a prévenu qu'il arrivait, et il a également établi les solutions au niveau international pour y remédier. Donc, accueillons l'économiste et homme d'État américain, Lyndon LaRouche. Merci.
This past week, past Thursday, I gave a advance.
La semaine dernière, j'ai eu une discussion, une présentation avec des gens importants ici à Washington.
On a discussion of what I was going to say today.
Et donc j'ai discuté déjà ce que je dirais aujourd'hui.
Remarks I made in opening were recorded and have been reproduced in circulation now.
Lorsque mes propos ont été publiés, même si la discussion était à huis clos, ce que j'ai dit essentiellement, c'est que aujourd'hui nous sommes dans une crise d'effondrement du système monétaire et financier international. Il est absolument impossible de sauver ce système en tant que tel. Le système financier monétaire actuel ne peut pas être sauvé. Si on essaie de le sauver, on perdra tout, on perdra la planète. Donc il faut choisir. Donc les personnes saines, je pense, diraient, sauvons la planète plutôt que le système.
So that what that means essentially is the world is now operating under an imperialist system, which is actually part.
Il faut comprendre c'est que le monde aujourd'hui est contrôlé par un système impérialiste dans l'héritage de l'empire britannique. Et cet empire s'exerce par le système monétaire, qui est un système mondial. Et depuis 1971. Et le lancement des marchés spéculatifs a commencé par les marchés pétroliers, les marchés spot, au début des années 70. Depuis cette période-là, les États-Unis ne contrôlent plus le dollar. Et le dollar a été de plus en plus, au fur et à mesure que l'économie et l'industrie américaine se détruisaient, contrôlée par des milieux londoniens. Des milieux de la finance. Et toute la crise actuelle a commencé en 1987 avec Alan Greenspan qui était à la tête de la Réserve fédérale. Donc c'est ajouté au système de spéculation monétaire, le système inventé par Michael Milken. Et Alan Greenspan a repris cette invention, cette innovation financière de Michael Milken et l'a légalisée au niveau du système financier. Et la crise d'aujourd'hui n'est pas une crise de l'immobilier. Ce n'est pas partie de la crise des subprimes.
Real estate market collapse that I've talked about. What was collapsing was
ce qui s'est en réalité effondré, c'est tout le système. Et l'ensemble du système équivaut à plusieurs millions de milliards de dollars. Ça, c'est la bulle financière. C'est les valeurs spéculatives qui sont là. Et c'est bien plus que ce que toutes les richesses du monde représentent. Et le dollar, dans ce jeu-là, est une monnaie folle contrôlée par des intérêts financiers internationaux.
And what happened is they had gone into the area of U.S. real estate, as in London and elsewhere, and trying to create debt.
Ce qui s'est passé en réalité, c'est que tous ces dollars qui ont été créés ont été réinvestis en espérant créer d'énormes profits dans l'immobilier. Et on a créé en fait une énorme dette liée au secteur immobilier. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour couvrir la demande, pour couvrir cette dette. Donc aujourd'hui, au point où le système en est arrivé, pour sauver ces valeurs spéculatives, il faut sacrifier la valeur de la monnaie et sacrifier du coup l'économie. Donc la seule chose qui est possible de faire si on veut s'en sortir, c'est de faire un redressement judiciaire du système.
Is end the existence of monetary systems.
Donc, la première chose à faire, c'est d'en finir avec le concept de système monétaire.
We go back to the US dollar. Our constitution is unique.
Et ce qu'il faut faire, c'est revenir au véritable dollar. Car la constitution américaine est unique de ce point de vue sur sa définition de la monnaie. Par exemple, les pays européens ne sont pas véritablement des États-nations. Ils inspirent à l'être, et on l'a vu notamment avec la Ve République de De Gaulle. Mais l'Europe reste dominée par des systèmes parlementaires, qui ne sont pas des systèmes entièrement souverains, ce qui fait que les nations ne sont pas souveraines. Et on le voit avec cette question du système monétaire, ils sont contrôlés par des intérêts financiers privés, internationaux. Donc ce que l'on doit faire, c'est revenir à la constitution américaine et remettre le dollar dans un système de crédit. Pas un système monétaire, un système de crédit, qui est conforme à notre constitution, parce que c'est ce que notre constitution dit. C'est-à-dire que ce que dit la constitution, c'est que la monnaie ne peut être qu'émise sous l'autorité du Congrès américain, sous l'initiative du gouvernement et de la présidence. Donc, légalement, si on suit la constitution américaine, le dollar n'existe que dans le cadre de ce qui est autorisé publiquement.
And uttered by the US federal government. There is no such thing as an international monetary source which gives us our currency.
Et on considère donc dans ce système qu'il n'y a aucune source internationale monétaire, que le dollar est uniquement contrôlé par les représentants du peuple. On est un État souverain. Donc on émet notre monnaie, personne d'autre. C'est la présidence et la Chambre des représentants. Et en Europe, ce n'est pas le cas.
In Europe, the monetary systems are not controlled by the government.
En Europe, les systèmes monétaires ne sont pas contrôlés par les gouvernements. On a un système de banque centrale qui, bon, négocie avec les gouvernements et qui ont des accords avec les gouvernements. Mais les gouvernements ne contrôlent pas, n'ont pas la main sur le système monétaire. Donc on est en réalité dans un système de libre-échange.
As issuing authorities.
où les nations, les gouvernements n'ont aucune autorité sur l'émission de la monnaie.
And it's because of the utilization of that provision that artificial money was created
by people. Et par ce moyen-là, on a créé de la monnaie artificielle.
In capital amount to go into debt to get a lesser amount of money uttered in their behalf now.
Car on a émis de la monnaie en contrepartie de dettes.
Presently outstanding debt,
de dettes financières.
Means its derivatives and the order of quadrillions of dollars.
Et aujourd'hui, cette dette financière est de plusieurs millions de milliards de dollars dans le monde.
So we are never,
c'est bien plus que ce qu'on pourra jamais payer. Donc, on ne paiera jamais ces dettes. De toute manière, on ne peut pas. Donc, on ne les paiera pas. Jamais. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on va prendre l'exemple de la Constitution américaine et de ce qu'on peut faire aux États-Unis. C'est qu'on met le système en banqueroute. Un système de redressement judiciaire où on va trier ces dettes, celles que l'on va garantir, que l'on va conserver, et les autres, on les laissera pourrir. Mais la grande partie des actifs et des titres financiers qui sont en circulation aujourd'hui, ou qui existent aujourd'hui, seront annulés, purement et simplement. Tout ce qui est lié à l'économie réelle sera payé. Le reste, non. Jamais. Quoi qu'il arrive, jamais. Car soit on laisse le monde s'effondrer avec des famines et des morts massives, ou alors on fait ce redressement judiciaire. Donc pour organiser ce redressement judiciaire, il faut partir avec un groupe de 4 nations. Comme je l'ai déjà expliqué. Donc il faut prendre les 4 grandes puissances de la planète. Évidemment, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Qui puissent être ensuite rejoints par d'autres nations, évidemment. Et on dit, avec ces 4 grandes puissances, on fait le redressement judiciaire du système. Mais le rôle des États-Unis est absolument unique, puisque c'est de notre Constitution qu'il relève de faire ça. Et d'apporter cette notion de système de crédit et plus de système monétaire. Donc c'est une obligation des États-Unis aujourd'hui de faire cela.
Other countries have a different kind of system. Now, if the United States says that we are going to back up our dollar,
car si les États-Unis disent aujourd'hui qu'ils vont garantir leur dollar tout en entrant dans un accord avec la Russie, la Chine et l'Inde et d'autres pays pour mettre le système en redressement judiciaire, où nous annulerons les obligations financières, la plupart, car sinon on n'aura plus de vie civilisée sur la planète. Parce que ces millions de milliards de dollars, à qui on va les prendre? Où vous allez les trouver? Ça va contre la loi naturelle d'essayer de renflouer cette dette. Combien de personnes il va falloir tuer pour faire cela? Combien de pays on va détruire pour rembourser cette dette?
We have this monetary authority outside, which has treaty agreements with governments, but which has no real obligation to governments otherwise, except the treaty agreement.
Donc revenons à ce traité.
Creation of a vast world debt, monetary debt, which could never be paid. Well, obviously, the system is bankrupt.
Puisque le système a accumulé des dettes d'un montant qui ne pourront jamais être payées. C'est clair, le système est en banqueroute, est en faillite. Donc, le rôle de ce traité et de ces nations, c'est de mettre en redressement judiciaire le système, car il est en faillite. C'est inévitable.
Is an obligation and under the authority of the U.S. government. because in each process, by the approval of the Congress for uttering it, and by the action of the federal government with that approval. Now, also, not only do we utter our currency properly,
donc non seulement nous devons émettre notre propre monnaie selon notre constitution, mais en tant que république souveraine, nous devons nous mettre d'accord selon un traité avec d'autres pays pour que ce système puisse profiter aux autres pays. C'est cela la réorganisation du système. C'est la seule manière de sortir du guépier dans lequel nous sommes. Donc ce traité sera basé sur cet élément fondamental de la Constitution américaine en coopération avec l'ensemble des nations. Et tout ce qui sera mis sous protection de ce nouveau système, ce système de crédit, sera garanti, sera solide. Et on saura sur quoi on se base.
So therefore we can create a new credit system among nations, which I think with if the United States, Russia, China and India agree.
Et je pense que si les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde se mettent d'accord là-dessus, la plupart des nations du monde suivront.
And therefore we can create a new world system.
Et à partir de là, on peut donc créer un nouvel ordre financier et monétaire international, mais qui ne soit pas un système monétaire. Et à partir de là, nous pouvons émettre en quantité massive du crédit pour équiper le monde, pour développer la planète, et faire le même type de choses au niveau mondial que ce qu'on a fait aux États-Unis avec Roosevelt en 1933. C'est la seule alternative que nous ayons aujourd'hui. Et ça, implicitement, ce que ça veut dire, c'est la fin de l'Empire britannique, ou de ce qu'on appelle l'Empire britannique, qui est en réalité un empire financier mondial. Il n'y a pas d'autre empire aujourd'hui que l'Empire britannique dans le monde. Les Britanniques sont le seul empire. Et c'est ça, et c'est eux aujourd'hui qui contrôlent le dollar. Toute autre analyse est erronée. Donc à partir de là, nous reconstruisons le monde. Nous sortons du système de libre-échange, nous revenons à un système protectionniste avec des taux de change fixes, donc, où les monnaies ont des taux de change fixes entre elles, donc elles ne flottent pas, ce qui permet de les garder stables. Et à partir de là, on peut donc émettre le crédit pour de grands travaux d'infrastructure, de grands investissements, qui seront le moteur de la reconstruction du monde. C'est le seul remède que nous ayons. Toute autre suggestion que celle-là est folle.
Any failure to do exactly what I prescribe is insane.
Toute autre politique qui soit autre que ce que je viens de prescrire est folle.
Or we will have to draw the obvious conclusion.
Soit nous nous mettons d'accord sur cela, soit nous devons en tirer les conclusions.
That's what I outline in the essence as to how this would work. That's the core of it.
Voilà essentiellement ce que j'ai dit dans cette réunion la semaine dernière. C'est sur cela que nous devons nous mettre d'accord. L'autre problème aujourd'hui, c'est l'état de l'économie physique. La vie des gens est en jeu. Les niveaux de vie réels, physiques, se sont détériorés aux États-Unis et ailleurs. Dans de nombreuses régions du monde, on a une famine qui ronge et cela est directement lié aux spéculations et au désordre monétaire et financier en même temps que du désordre de l'économie réelle, des règles appliquées à la production.
may have noticed with the case of Monsanto, another one, where we grow food in one country to be eaten in another country.
Parce que ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on produit des aliments dans un pays et on les vend dans un autre. Mais les pays ne produisent pas pour s'alimenter eux-mêmes. Ils produisent de la nourriture pour d'autres pays.
WTO type agreements to produce food for people in other countries. For the food you eat yourself, you have to go to
a... Tout ça sous un traité de libre-échange. Donc c'est complètement fou. Il faut d'abord faire en sorte que les gens produisent pour eux-mêmes, pour leur pays.
The international financial community, which determine the prices which is paid.
Et aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui détermine les prix des produits alimentaires produits dans des pays parce qu'ils doivent être vendus dans d'autres.
And what we've done recently is we have destroyed the independent food producing capabilities of nations. So they don't...
Et la conséquence, c'est qu'on a détruit toutes les capacités indépendantes des nations à être autosuffisantes et à produire en masse une production agricole.
It's a crime against humanity.
Donc ce traité de libre-échange doit être absolument annulé, tout de suite. Les gens doivent avoir le droit de produire de la nourriture dans leur pays, pour leur pays. C'est fondamental. C'est une question de souveraineté des nations. C'est une condition essentielle de la souveraineté, d'être autosuffisant.
Most of the other features of globalization have to end.
Et toutes les composantes de la mondialisation en général doivent finir. Si on veut que les gens aient une vie décente, il faut absolument changer complètement cette politique de mondialisation. Et mettre hors la loi ce type de pratique. Et s'assurer qu'il y ait une supervision pour empêcher ce type de choses.
As a result of these WTO and related policies.
Parce que à cause de l'OMC et de toutes ces politiques de libre-échange, on a des millions, voire plus de gens qui sont face à la mort.
And our remedy is to use great power of this planet.
Donc, nous avons la responsabilité d'utiliser les puissances à notre disposition sur cette planète, les pouvoirs que nous avons, pour changer ce système. Et absolument de lancer des projets à grande échelle d'infrastructures qui permettront aux pays de se construire et de sortir de cette crise réelle.
Il
y en a qui disent qu'il faut prendre, faut y aller par étapes, il faut prendre le temps. Et pour attraper un train en route, il ne faut pas aller doucement.
Ce
qu'on veut comprendre, c'est que chaque pays a ses caractéristiques. Et les États-Unis ont des caractéristiques très spéciales. Bon, la Russie aussi est très caractéristique. La Chine aussi a son propre caractère. L'Inde et l'autre et les autres. Et ces pays-là représentent une partie majeure de la population mondiale. Et le Japon aussi est lié à tout ça, puisque toute sa production est principalement les hautes technologies, s'exporte dans toute l'Asie. Jusqu'en Sibérie. La Corée aussi, la Corée du Sud, ou même l'ensemble de la Corée, ont un très grand potentiel. Bien que la Corée soit différente du Japon, de la Chine, de la Russie. Elle est différente, mais elle a un rôle à jouer. Et c'est la coopération entre ces pays aux caractéristiques différentes qui est un facteur très important.
India has completely different characteristics in this respect, but it also has, in effect, similar problems. The most common problem is power.
Now, et le problème commun à la plupart des pays, c'est l'énergie. L'énergie nucléaire est la seule énergie décente à notre disposition pour l'instant qui puisse permettre, en fait, de résoudre cette crise énergétique. Mais ce qu'il faut voir sur cette question de l'énergie est conceptuel. C'est que seulement un idiot mesurerait l'énergie en calories. Mais aujourd'hui, l'énergie nucléaire et une autre forme d'énergie, ou une énergie renouvelable, ne sont absolument pas comparables. On ne peut pas remplacer un kilowatt d'électricité nucléaire par un kilowatt d'électricité solaire. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes.
As it impinges upon the earth. That's a very poor quality of power.
Parce que le soleil est une quantité limitée et d'une intensité très faible à la surface de la Terre.
That is, sunlight has a very low cross density in terms of intensity.
La densité de la lumière du soleil est très faible au moment où elle frappe le sol de la Terre.
It helps to grow plants.
Ce que ça fait, ces rayons-là, ils sont suffisamment denses pour faire pousser des plantes. Les plantes vertes ont cette composante chimique qui est la chlorophylle. La molécule de chlorophylle a une longue queue. Vous pouvez voir dans un microscope. Elle a une tête.
And the sunlight impinging on this antenna is now captured by
la molécule de chlorophylle capture le rayon du soleil.
Now powers the magnesium head complex.
Et fait fonctionner la tête qui est faite de magnésium. Et il y a une interaction des molécules.
These collections of molecules of chlorophyll increase the energy flux density.
Et la densité de flux énergétique de l'énergie absorbée par la plante augmente par ce travail moléculaire. Cette intensité énergétique supérieure permet ensuite la production d'oxygène.
This in turn cools the increase of chlorophyll.
Cette production d'oxygène refroidit l'atmosphère.
Gives you a more uniform temperature. It turns the desert
into something else. Stabilise la température.
And therefore, and all life on Earth depends to a great degree.
Et la vie sur Terre dépend en grande partie sur cette action de la chlorophylle, de convertir la lumière du soleil par la chlorophylle en un ordre supérieur qui permet de nourrir tous les processus vivants et de refroidir l'atmosphère, créer les conditions de la vie. Donc ça, c'est essentiel à la vie sur Terre. Mais si on s'en remet à l'énergie solaire comme source d'énergie principale et qu'on essaye de chauffer quelque chose avec, qu'est-ce qu'on va faire au climat? On va accroître la température. Parce que les plantes, elles, refroidissent le climat. Donc on va élever la température. Et on va créer un désert artificiel.
Donc,
vous vouliez une planète verte, mais vous avez créé un désert. C'est ça qui nous arrivera si on utilise massivement l'énergie solaire.
This is only the mind of denatured idiots who think of these kinds of things. That's why they call denatured. So in any case, so therefore the key thing here is to increase the energy flux density of power.
Donc ce qui est clé dans la politique énergétique, c'est d'accroître la densité de flux énergétique.
Well, you can burn brush. That's not too efficient. Again, you're burning something that was once alive. Another way is to burn wood.
On peut, par exemple, brûler du bois ou du charbon, qui a un ordre de puissance supérieur au bois, qui a une densité de flux énergétique plus grande. Mais on peut aller à des formes encore plus condensées, à la coke, et ensuite au pétrole, qui est encore un ordre supérieur de densité de flux énergétique. Il y a le gaz naturel, qui est un petit peu supérieur. Et ensuite, on va à l'énergie nucléaire, qui est là, une densité de flux énergétique des milliers de fois au moins plus puissante.
A high temperature gas cooled reactor of a pebble variety, pebble bed variety, it was out to desalinate.
Et avec les dernières technologies de réacteurs nucléaires à disposition aujourd'hui, on peut dessaler de l'eau de mer et on peut irriguer massivement et créer les conditions de la vie de partout où c'est nécessaire.
Cheap petroleum all over the planet, high prices to burn it. You generate from water. You generate high temperature gases, which are much more efficient for airplanes and automobiles and so forth.
Et avec cela, on peut également créer des carburants de synthèse, qui ne sont pas du pétrole donc, mais des gaz de synthèse comme l'hydrogène, qui sont bien plus efficients pour propulser les véhicules et même les aéronefs.
This process we go to higher and higher degrees.
Donc on doit passer à un degré plus puissant de l'action humaine.
So by going to the
sur Terre,
energy flux densities,
en accroissant la densité de flux énergétique. Et en faisant cela, on améliore les conditions de vie sur la planète, de toute l'humanité et de la nature. Maintenant, prenons le cas de l'Inde. Elle a énormément de thorium dans son sol. Et le thorium a les mêmes types de fonctions que l'uranium, mais donc ne peut pas vraiment servir pour faire des armes nucléaires, mais par contre, pour faire des centrales nucléaires, oui.
Now, what that means is you have in India a typical case of about 70% of the population.
Donc, parce qu'en Inde, grosso modo, 70% de la population vit dans la pauvreté et n'a aucune qualification particulière.
If you can increase the power available,
mais si on accroît la quantité et la qualité d'énergie disponible,
you can take the same quality of labor, which is not too efficient because it's not skilled, it's not trained. But you can increase.
On peut transformer la force de travail parce qu'on va accroître la productivité même sans changer les modes de production, mais en apportant une énergie efficace et en permettant par exemple de dessaler de l'eau de mer. Donc on crée un environnement avec les infrastructures qui change la qualité du travail des gens parce qu'elle va faciliter la vie des gens et le travail des gens.
So therefore, the general method we've used in humanity in our successive ventures is to increase the environment.
Et c'est comme ça que l'humanité a progressé. La productivité ne se fait pas sur le lieu de production en tant que tel, pas uniquement, mais autour du lieu de production. Améliorer les conditions de la production, qui veut dire aussi améliorer la condition de vie des gens.
By concentrating efforts on improving what we call basic economic infrastructure.
Et pour faire cela, il faut bâtir, maintenir, améliorer les infrastructures économiques de base. C'est cela que nous devons poursuivre comme politique. Est-ce qu'on doit revenir aujourd'hui à la production d'automobiles? Non. C'est ce que j'ai dit en 2005 et début 2006. Déjà à cette époque, quand je voulais sauver l'industrie automobile, le Sénat a condamné et a tué l'industrie automobile parce qu'ils n'ont pas voulu la sauver. Ils n'ont pas voulu prendre les mesures nécessaires. Et maintenant, aujourd'hui, en 2008, ils disent « Ah, on va sauver l'industrie automobile, on va reconstruire des voitures. » Alors que même le marché s'effondre. Donc les voitures, c'est du fantasme, c'est fini tout ça. Et l'industrie automobile a fait son temps. Pourquoi est-ce que les gens qui ont fait en sorte de fermer l'industrie automobile, qui l'ont laissé fermer en 2005, est-ce qu'ils veulent la sauver aujourd'hui? C'est fou quand même. Ils veulent la redémarrer aujourd'hui alors qu'ils l'ont fait fermer, il y a 3 ans. Aujourd'hui, Nancy Pelosi, c'est elle qui a fait fermer l'industrie automobile. Et maintenant, elle nous dit qu'il faut la rouvrir. Elle a changé d'avis ou quoi? Est-ce qu'elle a changé autre chose? Tout ça, c'est du vent. C'est de la fausseté. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de produire des automobiles aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a bien d'autres pays qui le font très mieux, bien mieux que nous. Pourquoi est-ce que nous, on reviendrait en fait à produire des voitures? Ça n'a plus de sens. Regardez rien que les voitures qu'on produit. Regardez-les. On ne peut pas les vendre.
Let's take the highways around here. What's the congestion? How much time do you lose every?
Regardez aujourd'hui combien d'heures les gens perdent dans les embouteillages.
What, 2 hours commuting for you? 2.5 hours each way?
Certains 2 heures, certains plus, certains 2 heures aller, 2 heures retour.
How much of your personal life is lost?
Combien de temps de votre vie personnelle, de votre vie privée est perdu dans les embouteillages? Non, on ne peut pas, ça. Donc on doit créer un système de transport rapide, par rail, ou technologie assimilée. On n'est pas obligé de devoir tous conduire des voitures.
How much would you like to have less time for family life? If you're spending 5 hours a day...
Si vous passez 3, 4 ou 5 heures dans les transports par jour, quel genre de vie privée, quelle vie de famille vous pouvez avoir?
What kind of a family life you?
Quelle vie c'est pour les enfants, ça?
For Americans with that kind of arrangement, shouldn't we have, instead of all these automobiles?
Est-ce que plutôt que toutes ces voitures bloquées sur les autoroutes, avec tous ces péages et toutes ces odeurs et toutes ces problèmes-là, il serait pas mieux d'avoir un transport de masse à grande vitesse, bien organisé, et que tout le monde puisse avoir une vie de famille, puisse avoir le temps pour vivre? Que tout le monde puisse avoir une vie normale, plutôt que de perdre des heures et des heures. Aujourd'hui, on a une pénurie d'investissements industriels, on a une pénurie d'énergie. On a une pénurie d'eau douce.
Water system from a tap. Do you remember when that was? How many bottles of bottled water do you drink a day?
Vous imaginez ce qu'il faut pour avoir de l'eau potable qui arrive jusqu'à votre robinet?
Et
quel est le coût que ça a aujourd'hui pour arriver à maintenir ce service? Le coût et le prix que l'on paye pour ce service. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on a une défaillance totale de l'infrastructure dans ce pays, aux États-Unis. Aujourd'hui, le maire de New York a une politique complètement folle. Il veut acheter votre trottoir et mettre un péage à chaque angle de rue. Ça, c'est sa notion d'infrastructure. Non, ce qu'il faut, c'est des systèmes de transport gratuits. On n'a pas besoin de péage. On n'a pas besoin de barrière à péage. Ce n'est pas justifiable. Plutôt que cela, on a besoin d'un environnement libre.
Just free, but it becomes an essential part of providing the environmental conditions of life.
Libre dans le sens, on permet les conditions de vie privées et de la vie des travailleurs qui permettent de vivre bien et d'être efficace.
In other parts of the world like that.
Et la question des infrastructures est encore plus cruciale quand vous regardez l'Afrique.
The effort to the local point of production. You're going to increase the productive powers of labor by providing the infrastructure.
Et le seul moyen d'accroître la productivité du travail pour développer les économies, c'est de créer des infrastructures. Elles vont créer ce potentiel de production.
In Africa, maybe some food will survive. Africa is one of the largest food producing areas in the world.
L'Afrique est un très grand producteur d'aliments. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure qui permette de les acheminer, par exemple, ou de les stocker. Donc les services à la production agricole sont quasiment inexistants. Donc il faut améliorer l'infrastructure. Parce que ça façonne complètement la vie humaine et la production. Ça la détermine même. Donc on doit accroître les pouvoirs productifs du travail, y compris ici aux États-Unis. Ça fait 40 années cette année que les États-Unis perdent de la productivité par tête, 40 années de suite, que l'on perd notre capacité de production, notre productivité, mesurée par personne. Parce que pendant ces 40 années, on a perdu notre industrie, on a perdu nos emplois qualifiés. Aujourd'hui, on donne juste un travail aux gens pour qu'ils soient occupés, mais c'est des services qui servent les services, des services qui eux-mêmes servent les services, qui servent les services. Ça n'a aucun sens. Et ça fait 40 ans, en fait, qu'on se comporte comme des fous. Depuis l'année fiscale 1967-68, nous sommes en décroissance. Et à partir de Carter, on a complètement détruit l'économie américaine. C'était le grand accomplissement de la présidence Carter, contrôlé par la commission trilatérale, évidemment. Et ensuite, on a détruit l'Europe. Regardez l'Allemagne depuis 1989. Toute l'économie a été détruite là-bas, sur ordre de Margaret Thatcher, soutenue avec George Bush, le père de l'idiot actuel, et avec le soutien de Mitterrand. L'Allemagne était vraiment l'atelier de l'Europe, et même du monde, et a été détruit par ces politiques lancées par ces trois personnes. Et la Pologne aujourd'hui est bien moins productive que ce qu'elle était même sous le Comecon. Qu'on a détruit les conditions de productivité économique sur la planète en général avec ces politiques. Et donc aujourd'hui, nous avons un grand besoin de faire des percées technologiques, des percées qui sont à notre portée, et aussi d'assimiler ces technologies dans l'économie, en les utilisant dans les infrastructures, et donc en développant les infrastructures. Et ainsi, on accroît la productivité. Et ça permettra de qualifier les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les emplois qualifiés, les qualifications dans la main-d'œuvre qu'on avait il y a 40 ans. Et on est sur le point de perdre quasiment le peu qui reste.
We're flying old planes of lower technology.
Et regardez par exemple les technologies pour l'aviation, n'ont quasiment pas bougé depuis 40 ans. N'ont pas bougé.
So we've got to go back to that and build that. So what we need is the large employment that's feasible for the development of the basic economic infrastructure which is.
Nous devons revenir à des emplois qualifiés, des emplois massifs, orientés dans la construction des infrastructures et de l'utilisation de ces technologies, et rehausser le niveau de productivité pour revenir au niveau déjà qu'on avait il y a 40 ans. Aujourd'hui, de toute façon, les voitures, on ne peut plus les vendre. Et on ne peut pas être compétitif de toute manière avec les autres pays aujourd'hui, dans les conditions actuelles, et même parce que de toute manière, on a détruit nos propres compétences.
We were using old technologies.
Parce qu'ici, on utilise de vieilles technologies pour produire les voitures, qui ne sont plus compétitives avec les technologies plus avancées qui sont à l'œuvre en Asie. Mais c'était une politique délibérée, un choix délibéré d'abandonner ces investissements technologiques. Donc il faut revenir à une politique de densité de flux énergétique supérieure et d'utiliser massivement la technologie nucléaire. Il faut revenir à une base énergétique de densité élevée.
Stop all this highway building. Get back to mass transit.
Et relancer l'infrastructure. Arrêter les autoroutes et lancer les transports de masse.
We used to have the idea of taking every state of the union.
Auparavant, on avait ce projet, cette idée de développer la production dans chaque État et de développer la production et les qualifications, les compétences, les ressources dans chaque État et de les relier avec un réseau de transport dense et massif. Et on avait un équilibre entre l'industrie, l'infrastructure et l'agriculture dans chaque État. Donc la productivité se diffusait dans tout le pays et dans tout l'arrière-pays, dans toutes les zones rurales. Donc les coûts de production étaient équilibrés en général dans tout le pays, étaient relativement égaux dans tout le pays. Mais ce qu'on faisait il y a 40 ans était sain à comparer à ce qu'on fait aujourd'hui, qui est complètement fou. Et notre objectif premier, c'est de faire ce qui est faisable dans l'immédiat, c'est de revenir à ces politiques-là. Et une des premiers grands chantiers qu'il y a, c'est également l'éducation.
So you've got to get back to an education for human beings, not for monkeys.
Aujourd'hui, on doit refaire une éducation pour les êtres humains et pas pour les singes, tel que c'est aujourd'hui. Parce que les êtres humains ne sont pas des singes.
Turning children into emotionally disturbed monkeys, which creates a market for teaching children who are emotionally disturbed. And the training program itself increases the disturbance. That's what we're doing.
Et en plus, avec les programmes qu'on a dans les écoles, on transforme des bébés, des enfants êtres humains en singes.
Systematically destroyed. By the policy changes which have been in effect over a period of time.
Donc on a été détruit par toutes les politiques qu'on s'est imposées depuis 40 ans. Il faut bien se souvenir comment cela est arrivé. Dans les années 20 et dans les années 30, avant l'élection de Roosevelt, Franklin Roosevelt, après la Première Guerre mondiale, les grandes puissances financières du monde avaient pour projet le fascisme mondial. Ce n'est pas l'Allemagne qui a créé le fascisme.
Ce n'est
pas Hitler qui a créé le fascisme. Il a été mis au pouvoir par les Britanniques avec l'aide de certains réseaux à New York, comme le Prescott Bush, le grand-père du président actuel. Prescott Bush a lui-même ordonné le déversement massif d'argent au parti nazi à la fin de 1932, alors qu'il était sur le point de la faillite, pour que Hitler puisse devenir dictateur.
And these guys, including that crowd, including Prescott Bush, remained on the Nazi side.
Tous ces réseaux-là sont restés du côté des nazis, même alors que nous partions en guerre contre les nazis.
Truman was also involved in that kind of stuff back then. So you had the whole Wall Street crowd.
Et tous ces intérêts de Wall Street étaient aussi nazis que les Britanniques qui ont créé Hitler eux-mêmes. C'est clair. Ils ont créé Mussolini également. Winston Churchill était le grand soutien de Mussolini jusqu'à ce que Mussolini se retourne contre la France et contre les autres amis de Churchill. Et Churchill soutenait Hitler jusqu'à ce que l'Allemagne nazie envahisse la France. Donc Hitler n'était pas une création de l'Allemagne. C'était une création de Londres, avec le soutien de réseaux financiers aux États-Unis, dont le grand-père du président américain actuel. Et au milieu de ça, Roosevelt est devenu président. Et s'est opposé à la politique des intérêts financiers menée par J.P. Morgan, qui avait soutenu Hitler et Mussolini. Roosevelt, contre ces gens-là, a fait un miracle en sauvant le monde du fascisme, d'une dictature fasciste mondiale. Et les Anglais, Churchill, ont rejoint Roosevelt lorsque l'Allemagne a envahi la France, mais pas avant.
So, what we did in my generation in going to war.
Donc dans ma génération, en entrant dans cette guerre contre Hitler,
setting up what Roosevelt intended should become a post-war development.
Avec cette idée d'un développement d'après-guerre, cette action-là a changé l'histoire pour le meilleur. Mais au moment où Franklin Roosevelt est mort, là, on était mal barré. J'étais là à l'époque. Quelques-uns, peut-être dans la salle, deux ou trois, étaient là aussi à l'époque. Et très rapidement, on est revenu sur toutes les politiques de Roosevelt et on est parti dans le sens inverse. Et on a annulé tout ce qu'on avait fait depuis 1933. On est revenu à avant
1933.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose de revenir à la vision et au type de philosophie qu'avait Franklin Roosevelt.
Kicking against the pricks.
Et en faisant ça, mais je vais contre l'opinion établie.
The trend is what? The trend has been continuously one toward world fascism.
Parce que la tendance qui s'impose aujourd'hui dans la société et dans la politique, c'est d'aller vers un fascisme mondial.
Drive toward a new kind of world fascism called.
C'est ce qui est en route aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la mondialisation en réalité.
Therefore, if you look at this, look at the process by which we have been destroyed from what we were becoming and had become.
Donc, si vous regardez comment on a été détruit,
especially since 1968, 71,
principalement à partir de la période 68-71, c'est que c'était pas un processus naturel, spontané dans ce sens, mais c'était une conséquence d'une politique délibérée. Faites pour nous orienter dans ce sens-là.
We didn't collapse because the environment was strained. We didn't collapse for any of those reasons. We collapsed because somebody intended that we should collapse.
C'est pas une question d'environnement, de bulles financières, etc. Si on s'effondre, c'est parce que des gens l'ont voulu.
Wall Street influence back in the 1920s into the early 1930s.
Parce que sous l'influence de ces réseaux financiers, le but c'est de revenir aux années 20, au début des années 30.
Only in that case, Roosevelt won. So we are in trouble today only because we made that change.
Et aujourd'hui, si nous sommes dans la merde, c'est parce qu'on a accepté ce changement qui s'est fait après Roosevelt. Maintenant, la question qui se pose à nous, c'est voulons-nous survivre?
We have a lesson of how to survive in what Roosevelt in particular accomplished as president.
Et pour survivre, nous devons absolument nous inspirer de l'œuvre de Roosevelt. Et nous pouvons survivre. Mais si on ne le fait pas, on ne survivra pas. Dans les conditions actuelles, si les changements que j'ai prescrits ne sont pas faits, qu'on n'organise pas la relance de l'économie sur les lignes que j'ai décrites, il n'y a aucun espoir. Aujourd'hui, on est entre 6,5 et 7 milliards de personnes sur cette planète. Et 5 ou 6 milliards pourraient disparaître dans l'histoire si nous suivons la route actuelle.
The direction which we're going in as of the 18th, direction we're going at us at the end of the week. If we continue in that direction, that's where we're going.
We're going. C'est là que nous allons si nous ne changeons pas de direction.
And the alternative is to turn this around.
L'alternative, c'est de changer. C'est de reconnaître que nous faisons face à l'enfer et que nous nous précipitons dans l'enfer aujourd'hui. Et on ne parle pas de plusieurs années. On parle que ce sera d'ici à janvier ou février qu'on peut basculer.
And the silly fools of other participants. Many people were not silly fools there, but they said we're going to go along with this, for this guy's getting out of here. It was temporary. We go in that direction, we're finished. Civilization, if you know, is finished. It's happened before. Look at the history of mankind.
Et les effondrements de la civilisation, de la vie civilisée, sont déjà produits dans l'histoire humaine.
Exactly.
Regardez l'histoire.
But the same type of problem.
Bah, les mêmes circonstances exactes, mais le même type de problème.
The conditions of life of the average person were improving. The culture was improving. Technological.
Et dans certaines périodes, les conditions de vie s'amélioraient, la vie s'améliorait, la population grandissait.
The civilization went into a crisis and collapsed.
Et ensuite, il y a des crises qui arrivent, et la civilisation peut tout à fait s'effondrer dans ces crises. C'est ce qui arrive dans le passé, et traverser des âges sombres.
In every case, there was the possibility of not letting that happen. In many cases, it was allowed to happen. No one resisted.
On a toujours le choix à un moment donné de le laisser arriver ou pas, de changer ou pas.
Do we care what happens to our people, what happens to
mais,
the country becoming prisoners of the world?
Est-ce que finalement on est préoccupé de ce qui arrive à nos voisins, ce qui arrive à nos semblables, de ce qui arrive aux autres pays, ce qui arrive au monde? Est-ce qu'on a vraiment la volonté de dire non, vous ne ferez pas subir ces politiques et les conséquences de cette politique? Est-ce qu'on a les tripes de reconnaître la réalité? Il y a des gens qui disent toujours, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un petit compromis quand même? Bon, prendre un bout de ta politique ici, et puis la coller là, et puis s'arranger. Et vous voulez parler de recommandations, de raccommoder les choses, alors que tout est en train de tomber en lambeaux?
C'est un outline of exactly the policy we can follow.
Donc c'est. Ces propos-là, je les ai également tenus mardi dernier dans cette réunion à huis clos à Washington. Et aujourd'hui, ce qui compte à Washington, ce n'est pas le président élu, c'est le système de la présidence, les institutions de la présidence. Et c'est le système présidentiel des États-Unis qui doit mener la bataille politique pour arriver à cet accord avec la Russie, la Chine et l'Inde. Tout de suite, immédiatement. On peut le faire et ça changera complètement la face des choses, la face de la planète. Est-ce qu'on a envie de faire ça?
With the understanding that we're going back to the kind of policy that Franklin Roosevelt.
Est-ce qu'on a vraiment le courage de revenir aux principes des politiques de Roosevelt, de ce que Roosevelt représentait et de ce qu'il a fait en tant que personne, et de le faire à notre époque?
And if we can engage Russia.
Si on a vraiment envie de faire ça, à ce moment-là, on peut rejoindre la Russie, la Chine et l'Inde et les autres pays du monde et s'engager les uns avec les autres pour dire communément qu'on ne se laissera pas faire, qu'on ne va pas laisser les choses se passer sans rien faire et décider de mettre en place les politiques qui nous permettront de survivre. Si on a envie, on survivra. Mais si on n'a pas envie, nous sommes que des idiots. Et on méritera ce qui nous arrivera. Si on n'a pas envie de changer. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Les gens me disent, expliquez-nous vos plans et tout ça. Moi, je leur dis très clairement, vous comportez comme des fascistes, alors arrêtez de faire ça. Vous êtes complaisants, arrêtez. Parce que vous contribuez à ce qu'on spolie la population.
quadrillions of dollars of debt out there.
Et regardez ces millions de milliards de dettes qui sont là et qu'on essaie de faire payer aux gens. Arrêtez de parler des subprimes. Les subprimes, c'est rien dans ce système. C'était juste un point faible, un maillon faible, mais c'était pas, ça ne représente pas le système. Et aujourd'hui, vous pensez qu'on va revendre les maisons des gens pour se trouver des millions de milliards pour renflouer les dettes financières? Tout ça, c'est de la lâcheté. Mais ces gens qui sont lâches ne sont pas forcément des personnes mauvaises. Mais pour l'instant, ils préfèrent être lâches. Ils ont peur d'affronter un ennemi dans une bataille rude. Ils savent que l'ennemi a déjà tué des gens. Ils savent que des présidents américains sont tombés sous les balles de ces gens. Ils savent que l'ennemi est aussi un assassin. Et alors? Et beaucoup de gens au pouvoir sont conscients de tout ça. Et il y a beaucoup de gens dans le pouvoir qui représentent ces intérêts-là, qui sont des vrais tueurs, comme Félix Roatin ou George Shultz, qui sont bien pires qu'un George Bush.
George Soros is a killer. One of the biggest drug dealers in the world.
George Soros, par exemple, lui, c'est un assassin. C'est un des plus grands dealers de drogue au niveau international, en réalité. Et il a été formé, alors que lui-même est juif, il a envoyé des juifs dans les camps de concentration. C'était son boulot quand il était adolescent. Et il a gardé, il le revendique, la même mentalité qu'à cette époque.
Don't necessarily call him a coward by ordinary standards of cowardice. Take into account the fact that he's terrified.
Et donc, ces gens qui sont des trouillards dont je parlais, ils sont complètement apeurés en réalité. C'est pas qu'ils sont des mauvaises personnes, c'est qu'ils sont terrifiés par ces politiciens-là. Alors en même temps, ça leur donne des bonnes excuses d'avoir peur.
So that's our part. And some of us have to stand up.
Mais certains d'entre eux vont devoir se lever. Et moi, c'est ce que je fais. Je fournis le leadership pour que ces gens-là se lèvent. Et s'ils le font, on a tout à fait la capacité de lancer ces politiques qui vont changer la face du monde. Si on travaille ensemble, si on lance cette coopération entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, et les autres pays qui suivront nécessairement, alors on peut sortir de cette crise. On peut changer complètement les orientations de la société et de la planète. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça?
Vous
savez, quand j'étais jeune, et certains d'entre vous, quelques-uns, avaient été jeunes à la même époque que moi, quand on pensait à la vie, on pensait à deux générations en avant. Sur du grand-père pensant à son petit-fils, son petit-enfant. Et on pensait à lorsque l'on serait des grands-parents. Et beaucoup de gens qui immigraient aux États-Unis pensaient de cette manière. Les gens pauvres qui immigraient aux États-Unis, qui venaient de tout un tas de pays qui avaient été eux-mêmes en proie à des difficultés, pensaient de cette manière-là. Ils pensaient à leurs petits-enfants en venant aux États-Unis. Et même s'ils avaient une vie très dure de travailleurs à New York ou ailleurs, ils le faisaient parce qu'ils savaient que la vie de leurs petits-enfants serait meilleure. Ce serait le résultat de leur vie à eux. Et ils voyaient les États-Unis comme une terre d'opportunités. Le moyen de se développer, de devenir quelque chose sur deux générations. Et ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on en pense uniquement à un stade égoïste. Et on se dit, de toute façon, du jour où je vivrai plus, j'en aurai plus rien à foutre. Et ça, ce n'était pas vrai avant. On pensait généralement deux générations en avance. On pensait à ce qui se passerait après notre mort. Et donc, on n'était pas des chiens, on était des êtres humains. On pensait en termes humains, on pensait en termes des générations à suivre. On pensait à d'où on venait, on pensait à l'expérience de notre famille et à progresser, à aller plus loin que notre milieu familial. Et on essayait de comprendre le chemin que prenait le pays et de concevoir le rôle que l'on jouait à l'intérieur du pays. Et en pensant à ce qui sortirait de notre milieu familial dans une ou deux générations. Donc on avait cette idée d'une société. Et l'idée d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un. Et de participer à ce développement qui se fait sur plusieurs générations. Sur deux, trois, quatre générations, cinq générations.
And look ahead at least a couple hundred years. And you've situated your life in what your role.
Et même ce qu'il faut faire, c'est regarder plusieurs siècles en arrière, plusieurs milliers d'années en arrière, et situer sa vie par rapport à cette trajectoire dans l'histoire. Pour savoir ce qu'on va faire dans les années à venir.
Your interest in being was not what you experienced while you were alive.
Et l'intérêt de la vie, c'est parce qu'on est notre vécu pendant qu'on est vivant. Mais c'est ce dont on fera partie de notre vivant qui va déterminer le futur. C'est ça l'intérêt dans la vie.
It's like the grandfather, you know, take his son out to a large project, like the Tennessee Valley project of the old days, and saying to the grandson, I helped build this.
See what I helped build. Imaginez ce grand-père qui emmenait son petit-fils sur pour voir, par exemple, les infrastructures, il disait, voilà, moi je fais ça. J'ai participé à construire ça. Et ça crée un désir d'être humain. Ça, c'est une autre mentalité. Mais aujourd'hui, on ne pense pas dans ces termes-là. La société ne vous encourage pas à penser dans ces termes-là. Et c'est extrêmement dégradant d'un point de vue individuel. On peut résoudre ces problèmes dont je parle aujourd'hui. Mais on doit comprendre la nature du problème. Et on doit comprendre qu'aujourd'hui, on est à la fin de la vie civilisée. Et aujourd'hui, les solutions qui sont mises en place, les politiques qui sont faites par les chefs d'État et les hauts dirigeants aujourd'hui du monde, sont absolument, ne nous sortiront pas de l'ornière et au contraire, nous y mènent. Le système s'effondre cette année, là, dans les mois qui arrivent. Maintenant, c'est même déjà fini en réalité. Et il n'y a nulle part où se cacher. Et si vous voulez vivre en enfer, restez où vous êtes, bougez pas. On a besoin de changer. Et si vous ne voulez pas changer, ça viendra à vous. Êtes-vous prêt à prendre le risque de changer? Êtes-vous prêt à mener cette guerre? À vous battre dans cette guerre? D'aller avec vos frères d'armes et de vous battre? Voilà où nous en sommes. Voilà les termes dans lesquels nous devons penser la situation et penser notre action. Pour moi, la situation est très claire. C'est possible de gagner encore. Mais pour l'instant, c'est pas fait, loin de là. Donc on doit faire en sorte que ça devienne. Et c'est à vous de le faire.
Nous sommes rassemblés à Washington aujourd'hui. Des groupes sont organisés partout dans le monde pour regarder cette conférence. Partout dans l'Amérique latine, en Argentine, le Brésil, à La Paz, en Équateur, à l'université de Cotopaxi, au Salvador, un rassemblement d'économistes et de syndicalistes, Mexico, le département économique et d'ingénierie du Pérou également sont réunis devant ce webcast. On a également prévu d'être entendu dans le congrès argentin. Mais le comité anglo-argentin, responsable de ce département économique, a empêché la retransmission de cette conférence. Mais donc je vais poser quelques questions par rapport à ce que M. Larouche a développé comme thème aujourd'hui. Comment nous devons changer rapidement? Donc un journal de politique très connu à Washington. Alors, rien n'est sorti de positif du sommet du
G20.
Mais sans la prise de décision immédiate, par rapport à ce que tu viens de dire, on peut s'attendre à des initiatives et que le changement doit venir des États-Unis, même si le nouveau président Obama va essayer de bouger dans cette direction. Et le 20 janvier, c'est très loin. Est-ce que cette initiative, par exemple, peut venir d'un pays autre, comme la Russie, par exemple? Je suis à l'intérieur des États-Unis. Et j'ai ce que j'ai aux États-Unis. On n'est pas sans influence. Donc mon boulot est de pousser les gens à l'intérieur des États-Unis à faire ça. Et je vais voir tout le monde pour me dire, aidez-moi à faire en sorte que les États-Unis fassent ça. C'est ce que je fais partout dans le monde. Et à certains degrés, ça marche. Et beaucoup de gens aiment ça aux États-Unis. Vous allez avoir en France, par exemple, il y a des sources sérieuses qui sont en train de considérer sérieusement une alternative. Regardez ce qui s'est passé à ce sommet, ce qu'on a vu sur les écrans de télévision.
Vous
avez cette masse de gens. Est-ce que c'est sérieux? Pas du tout.
Limited number of time, limited number of speakers, secondary speakers, not primary ones, no discussion whatsoever.
Il n'y a eu aucune discussion, on a fait parler presque personne et presque pas longtemps. Mais on a vu deux personnes des fois se disputer, mais on n'appelle pas ça une discussion.
Donc
on a dit, les idiots veulent blablater, on va les laisser faire. Laissez les bébés blablater. On va les mettre ensemble, on va les laisser faire. Et après, à mi-janvier, on discutera avec d'autres des options réelles. À la mi-janvier. J'ai eu pas mal de messages aujourd'hui de hauts cercles responsables au niveau international qui sont en train de préparer quelque chose. Et la pression de la réalité pousse les gens à se mettre sur la ligne de front, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils savent que le système s'effondre. Il n'y a rien dans le monde aujourd'hui qui va tenir le système encore en place très longtemps. Donc il y a une pression énorme pour les pousser à faire quelque chose. Ils n'ont pas un grand courage.
Donc,
ils se regardent les uns les autres. Toi, t'es prêt? Pas moi. Toi, t'es prêt? C'est ça le type de problème. Et on doit pousser, pousser, pousser. C'est ce que je fais tous les jours. Et ça, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que la civilisation peut être sauvée? Oui. Oui. On a des plans pour la sauver. Moi, j'en ai. Est-ce que vous voulez me joindre? Me rejoindre? Oh, pas tout de suite. Je vais peut-être attendre encore un peu, vous savez, pour vous rejoindre. Et c'est ça la manière dont on doit voir les choses. On doit décider quelque chose. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est faire votre partie du boulot et essayer de rassembler ces pouvoirs décideurs. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? À toi. Toi, tu es prêt à faire ça. Ok. Et le temps est venu de faire des choses. Donc, mon point de vue est de montrer combien la réalité est terrible. Je n'exagère pas. C'est ce qui va se passer si vous décidez de ne rien faire. C'est ce qui va arriver si vous ne faites rien. Et c'est ce que vous pouvez avoir si on réussit à résoudre le problème. Ça, c'est le processus actuel. C'est pas une question de faire des prophéties magiques. C'est un combat sur des idées. Il n'y a pas de garantie. J'ai jamais vu de garantie dans la vie. Et la vie elle-même n'est pas garantie. Vous pouvez être assassiné ou tué en traversant la rue. Mais la question, c'est comment nous, on va agir face au challenge qui est devant nous, au défi. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on peut demander aux gens. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait plein de prévisions sur ma capacité à survivre, et je suis toujours là, et je suis en train de toujours mettre la pression. Je suis en train de me battre, toujours. Et je vais me battre également à l'étranger, influencer les gens à l'extérieur. Et ce n'est pas entièrement sans succès. On peut gagner. Et on doit gagner. C'est la vie.
Bon,
c'est une question de quelqu'un de l'équipe de transition, Monsieur Larouche. Je pense que tu es au courant que depuis le plan de renflouement, il y a eu beaucoup de discussions. Et dès la question du renflouement par rapport à la mettre en banqueroute. Et les entités en jeu dans ce système. Aujourd'hui, les General Motors, toutes les entreprises américaines d'automobiles ont besoin d'être renflouées également, d'être réorganisées. Je voudrais savoir si tu peux nous renseigner sur cette question du renflouement par rapport à la mise en banqueroute. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur l'industrie automobile? Quoi qu'il arrive, l'industrie automobile ne pourra pas être sauvée. Ce n'est plus du tout la capacité qu'on avait il y a quelques mois, quelques années encore. C'est un échec total, c'est suicidaire de réinvestir là-dedans. On aurait pu prendre des décisions il y a des années, ça n'a pas été fait. Donc mon point de vue, c'était en 2005. J'ai travaillé sur cette question-là et j'ai mis un plan en place de solutions pour l'automobile, l'industrie automobile. Donc j'ai dit, on ne pourra plus produire autant d'automobiles que certains le veulent. On doit la splitter, la diviser en deux parties. mais avec des buts communs. Le but commun, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire des développements de machines-outils pour l'aménagement du territoire. Un, c'est évidemment la production d'automobiles, et de l'autre, on peut produire d'autres choses. Et la chose la plus importante qu'on peut produire, c'est les infrastructures économiques de base, faire de grands projets, prendre le système d'aménagement d'eau entre les montagnes du centre des États-Unis, de la rivière de l'Ohio jusqu'au Mississippi, Missouri, Ohio. Et faire tout un système est le cœur même d'un plan de réindustrialisation des États-Unis. On l'avait déjà fait à l'époque entre le Mississippi jusqu'en Louisiane, mais on n'a pas développé plus loin. Et le Missouri n'a jamais été réellement développé. Et la rivière de l'Ohio était en partie développée. Et tous ces développements qui auraient dû arriver ont été empêchés.
50 years, 100 years.
Il y a 50 ans, il y a 100 ans, on aurait dû les faire. Mais les grands investissements ont été annulés. Et même aujourd'hui, tout ce qui existe est en train de s'écrouler. Tous les systèmes de contrôle de l'eau, de barrage, tout ça est en train de s'effondrer. Et aujourd'hui, on n'a même plus accès à l'eau potable dans beaucoup de parties des États-Unis. C'est le cas de la Louisiane. Vous avez vu ce que ce président fou a fait. Ce qui devait se passer est arrivé en Louisiane. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que le président a menti. Ils n'ont pas voulu dépenser l'argent alors qu'il y avait un risque énorme. Et ils ont menti sur toute la ligne. Et ceux qui ont osé dire la vérité ont été mis de côté à l'époque. Ça, c'est une chose importante déjà. Et aussi, et ça peut être aussi une partie importante de notre production alimentaire pour l'ensemble du territoire. À la frontière du Mexique du Nord, avant qui était une partie importante en fait de notre production alimentaire, est en train de devenir un endroit où on ne cultive plus que de la drogue. Et avant, cette partie de le Mexique dans le Nord était basée sur les qualifications agroalimentaires. Mais maintenant, on les a fait immigrer en Californie pour les faire travailler pas cher, en abandonnant leurs qualifications. Et on les a obligés à produire de la drogue. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de capacités de développement qui sont négligées.
The people who are being kicked out are skilled enough to be valuable in the Plano system.
Et aujourd'hui, tout ce projet, par exemple, d'aménagement d'un système d'aménagement pour le transport de l'eau Plino entre le Mexique et les États-Unis, on pourrait utiliser toutes ces qualifications, mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont aux États-Unis et travaillent pour des emplois pas chers. Il n'y a même plus de système de transport ferroviaire jusqu'à Mexico City par le train. Tout ça, c'est pas développé. C'est le plus proche de nos voisins et il est sous-développé. Et on est en train de rien faire du tout pour augmenter les capacités de développement dans cette région. On avait à l'époque des corps d'ingénieurs qui faisaient ce boulot, qui travaillaient dans le design de machines-outils. Et fournissait tout ce qui était nécessaire par les manufactures pour faire face à ces grands projets de développement infrastructurel. Et le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on peut faire, des grandes infrastructures à grande échelle, et que les machines-outils de l'industrie automobile pourraient être utiles à ce type de projet. Mais si vous employez ces gens dans l'industrie automobile, qui va faire le boulot?
But their designs are the same people that work in the auto plants. You simply have lots of floor space.
Vous avez une force de travail énorme dans ces milieux-là, comme on l'a fait au moment de la Seconde Guerre mondiale. On prend ces forces de travail, on les met au travail sur ce type de projet, on les fait développer les machines-outils nécessaires au développement de ces grandes infrastructures, et on leur donne ces projets à mettre en place. On leur donne. Et ils n'ont pas besoin d'autre chose que ce type de projet d'emploi. On va sauver leur ville, on va sauver leurs emplois. Le but en soi, ce n'est pas de produire des automobiles toute leur vie. Mais on peut utiliser leurs compétences, utiliser les capacités de machines à outils et mélanger tout ça pour ces projets. C'est une fraude, c'est la supercherie de vouloir rebâtir l'industrie automobile américaine. Et ceux qui proposent ça aujourd'hui sont incompétents. Oui, mais ça va aider les gens quand même. On va leur recréer des industries automobiles. Fraude. Totale fraude. Non, on va faire ce que le gouvernement a refusé de faire il y a quelques années. Non, ça ne sert à rien. On va utiliser les gens qui sont qualifiés suffisamment dans les hautes technologies, dans les machines-outils. Dans la conception de machines-outils, on va les remettre dans d'autres projets. Et ils sont tout à fait capables de le faire. On va sauver les communautés, on va réinvestir leurs qualifications dans ces projets. On va les remettre au boulot pour faire des choses utiles. On n'a pas besoin de produire des automobiles en masse. Ce qu'on a besoin, c'est des emplois dans ces communautés, dans ces villes. Alors, ne revenez pas me parler de ce type de projet fantaisiste. C'est ce que nous, on doit faire. Ce qu'on a besoin, c'est des projets à grande échelle. On parle de projets sur 30 à 50 ans, des cycles de 30 à 50 ans, en termes de production de biens. Donc c'est ça où il va falloir émettre du crédit pour financer ces projets sur 30 ou 40, 50 ans, en termes de développement. Il y aura des projets à 5-10 ans, mais la base, c'est 30 ans. On va devoir créer des investissements en capital contrôlés par le gouvernement fédéral, crédit fédéral, pour ces projets nécessaires dans l'intérêt national. Prenez par exemple l'exemple de la Tennessee Valley Authority. Tous ces projets qu'avait lancé Roosevelt, regardez ce qu'il a fait dans les détails. On a le même type de problème de toute façon aujourd'hui. On a les mêmes choses à faire. Et on a les qualifications encore dans l'industrie automobile, même si on a perdu beaucoup de nos machines-outils. Donc quand l'industrie automobile va mal, vous perdez également les machines qui vont avec. Et vous perdez votre nation, tout ce qui permettrait de rebâtir votre nation. Donc c'est notre objectif réel, c'est de réinstaurer une production de machines-outils pour des grands projets dans leurs ensembles, qui sont importants pour la nation et l'utilisation de nos ressources sur nos territoires. Et c'est ça qu'on devrait faire. Ce qui veut dire, pas la manière dont on parle aujourd'hui. Ça veut dire que les États-Unis doivent financer clairement en réorganisant notre système pour revenir à ce qu'on appelle le système de crédit. Foutez-moi en l'air cette dette énorme, honteuse. On met tout ça à la poubelle et on repart sur des bonnes bases et on fait des investissements capitalistiques à long terme. Ça, c'est l'approche que nous devons avoir. C'est notre approche. L'approche de Franklin Delano Roosevelt. Ça a marché à l'époque, ça marchera maintenant. On a appris une bonne leçon de Roosevelt, on doit la réapprendre aujourd'hui. Mais regardez. Quels ont été les arguments contre moi dans cette situation ? C'était Félix Roatine, ce nazi. Pourquoi je dis nazi ? Parce qu'il a participé avec George Shultz à la mise en place de la dictature au Chili et la torture des masses de meurtres, des meurtres de masse dans l'ensemble du Chili. Et sous l'administration Nixon. Donc des meurtres de masse. Des centaines d'enfants. Lancer des avions, on leur a ouvert le bide. C'est ça qui se passait à l'époque. On les balançait dans l'océan Atlantique. Ça, c'est Félix Roatine. C'est aussi George Soros. Des gens comme ça. C'est sérieux. Et on doit penser à ces choses-là dans leur ensemble. Et c'est ces gens-là qui se sont opposés clairement à toute tentative d'une approche rooseveltienne à l'été, printemps 2005. Ils ont dit clairement, pas de Franklin Delano Roosevelt, pas de Larouche. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et ils l'ont dit à plusieurs reprises. Pas de Roosevelt, pas de Larouche. Pas d'Hillary Clinton. Elle pourrait être associée à la Rouche. Elle a été menacée par ces gens-là. Des menaces sérieuses. Et c'est ça pourquoi on a des problèmes. C'est pas à cause de cette menace. Mais c'est parce que les gens n'ont pas le courage de dire que ces gens qui nous font ces menaces doivent aller en prison. Et les gens qui menacent et font des choses type nazi aux États-Unis doivent finir en prison. Ça, c'est notre problème. Donc, si on a les tripes, on a eu la possibilité, on aura alors la possibilité et on aura redonner le courage aux gens de faire ce qui est nécessaire. Et créer un soutien suffisant dans la population pour que les gens qui doivent faire des choses le fassent réellement. Pour ceux qui nous écoutent par Internet, on est dans la partie des questions et des réponses, deuxième partie de cette conférence Internet. Il y a des questions qui circulent à l'intérieur de la salle, donc ou si les gens veulent la poser eux-mêmes, ils peuvent prendre le micro. J'ai un sens un peu plus précis de ce que fait Debra en général quand elle présente ses webcasts. Il y a tellement de gens qui envoient des questions. Donc, c'est quelqu'un d'autre de l'équipe de transition qui demande d'insister sur ce qu'on doit faire immédiatement. Parce que sur cette question de Franklin Delano Roosevelt a été mise sur la table. Depuis des années, tu en parles. Maintenant, c'est sur la table avec la crise financière. Donc, c'est une question de l'équipe de transition. Les 100 premiers jours de la présidence Obama. Quelle est pour toi la bataille prioritaire? Viens me parler. je te donnerai des conseils.
Now, the first, we have to recognize we're in a world crisis.
Donc, ce que tu dois reconnaître, c'est qu'on est dans un système de crise mondiale. Que rien ne peut sauver le système présent. Rien.
That you can keep the system alive.
Et il n'y a rien de ressemblant qui pourrait faire en sorte qu'on maintienne ce système en vie. Et 100 jours, c'est très long. Et peut-être qu'après ces 100 jours, tu n'auras même plus de pays. Et tu dois faire ce que j'ai dit au départ. Tu as voulu être président des États-Unis. Tu veux être un héros national. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Va voir la Russie, va voir la Chine, va voir l'Inde. Dis-leur que tu veux faire exactement ce que j'ai dit aujourd'hui ou dans d'autres occasions. Et si tu survis à ça parce que les Britanniques ne te tuent pas, alors c'est bon. Mais prends des bons gardes de sécurité et fais ça. Et tu auras une réponse favorable de la Russie. Ils vont peut-être pas te croire au départ, parce qu'on leur a fait pas mal de promesses de ce genre dans le passé. Mais il faut aller les voir quand même. Parle aux gens en Chine, qui sont très concernés par tous ces problèmes. Parle aux gens en Inde. Et dis-leur que tu es engagé, toi, à faire ces choses-là.
You've either signed a suicide pact, which some presidents do risk for the sake of the nation, or you're going to become a world hero.
Là, tu peux devenir un héros mondial sur cette base-là. C'est la chose la plus intelligente que tu peux faire.
Looking at a page in the cemetery, it'll almost be a quick way to get there. That's the way you have to think about these things.
Et c'est comme ça que tu dois approcher la situation présente. C'est un point de départ. On doit avoir un projet sur lequel travailler. On a des ressources aux États-Unis par rapport au système monétaire et financier aujourd'hui. Imaginez, 3 présidences Bush, 12 ans. On peut perdre tout contact avec toute idée de la civilisation quand vous vivez trop longtemps dans les buissons. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, même s'il y a d'autres facteurs. Mais c'est comme ça qu'on va devoir commencer. Si on commence par ça, alors on pourra convaincre le peuple américain que tu es sérieux, et là, il y aura le soutien nécessaire pour faire ces politiques. Ça ne sera pas automatiquement, mais ils vont écouter. Et ils vont te donner le bénéfice du doute. Parce que la première chose qui va te frapper très fort, si ce n'est pas les Britanniques qui te tirent dessus ou qui essaient de te tirer dessus, la première chose, c'est ça. Dans les premières semaines, mois de l'année prochaine, on doit mettre ce plan en place. Sinon, c'est terminé. Si on fait ce type de coopération, je peux t'assurer, si vous avez ces accords avec la Russie, tu auras le soutien du Japon, de la Corée et d'autres pays encore. Comme la France, par exemple, tu auras le soutien de la France. Tu veux réussir en tant que président des États-Unis, fais ça. Et toutes les bonnes choses suivront par la suite si tu as le courage de faire ça. La prochaine question est de vieil ami de Beijing, en Chine. Avec un nouveau système de Bretton Woods, qu'est-ce que la Rouge pense d'une monnaie globale? Est-ce que ça va toujours le dollar américain ou un panier de réserves de monnaies différentes?
On whether or not to have a new currency. If yes to the last part, how should the new currency arrangement be linked to gold or to a basket?
Et est-ce que ces nouvelles réserves de monnaie doivent être basées sur l'or?
because that's exactly what you would be. Basket of currencies is a piece of idiocy. Is a piece of diplomatic nonsense that some people like to utter.
Baser tout système économique sur la monnaie est complètement stupide. Il y a une seule solution. De retourner au système de Bretton Woods, comme il a fait en 44 Roosevelt. Keynes, lui, c'était un fasciste, il l'a dit en 1937, spécifiquement, dans son premier livre, il l'a dit. Il a même publié son livre en Allemagne, parce qu'il pensait que ce serait en Allemagne nazie que son livre aurait le plus, serait le plus nécessaire. Donc c'est un système à taux de change fixe. Donc vous devez avoir des accords entre les États-Unis et les autres nations sur la base de ces taux de change fixe. Ça doit inclure la Russie, la Chine et l'Inde. Et là, vous pouvez faire quelque chose. Toute autre chose est complètement fou. Et nous mènera directement au désastre. On doit se concentrer là-dessus. Donc ça va être un système basé sur le crédit, pas sur la monnaie, par un système monétariste. Vous devez éliminer le système monétaire international. Mettez ce système monétaire en redressement judiciaire et vous rebasez tout votre système sur un système de crédit.
And my abilities. And you process them so that the essential things which are in monetary possession are now transferred to the credit account.
Et maintenant on va prendre tous ces actifs monétaires, les transformer en crédit pour des investissements dans le type de projet qu'on a défini.
But the thing would be what is immediately accepted is what's crucial.
Ça doit être accepté immédiatement. Des accords entre nations, entre ces quatre puissances, qui ont des capacités suffisantes pour faire ça, pour pousser la réorganisation du système financier et monétaire international. Et si ça, c'est un système de traité, un système de crédit. Et pour l'instant, la seule nation qui a ce type de système, c'est le système américain. C'est pour ça que ces pays doivent se coopérer.
We'll then engage in buying out salvageable elements which are important for all the existing monetary system, leaving the monetary assets still in the monetary basket, while putting some of these things in the credit basket. So the credit basket will function immediately.
And this one. On doit remplacer tous ces actifs financiers par des crédits d'investissement. Un ensemble de crédits pour irriguer la société. Et tout ce qui est les produits dérivés, toutes ces fantaisies financières et monétaires, on les fout au panier.
And then sooner or later, a lot of these things that are left in the monetary basket will be bought out.
Et de toute façon, tous ces actifs financiers qu'on mettra dans le panier, de toute façon, finiront par disparaître. Ils n'ont aucune valeur réelle.
And that's the only way you're going to get out of this.
Et ça, c'est la seule manière dont nous allons pouvoir sortir de la crise. C'est la seule manière.
I highly recommend it.
Et je me dois de vous le recommander.
You have better chance of survival, or your children and so forth. That's the way to do it. And that's exactly what that's.
C'est la seule manière de faire si vous voulez que vous ainsi que vos enfants puissent survivre dans les temps qui viennent.
Homeowner and Bank Protection Act. In their state legislature.
La loi de protection des propriétaires et des banques que tu avais mis en place il y a quelques mois, qu'est-ce qu'on doit faire après la protection des propriétaires américains et des banques? C'est un sénateur de Oklahoma, mais qui est joint avec d'autres sénateurs Et un autre de la Chambre des représentants également pose plus ou moins la même question. Mais Nancy Pelosi est en train de bloquer tout ce qu'on pourrait faire au niveau du Congrès. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette loi de protection des propriétaires et des banques que nous on a fait passer au niveau local? Puisqu'on a, nous, du chômage qui est en train de grandir, on a un déficit qui augmente chaque jour, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre État? Donc vous devez immédiatement éjecter ce type de personnes que sont Nancy Pelosi. Donc ces éléments que j'ai proposés, ces projets de loi au niveau fédéral, comme au niveau national, des États avaient l'intention d'être des changements permanents. Ce n'est pas des mesures temporaires. Donc les vraies banques, les banques légitimes et les propriétaires, on doit les mettre sous protection au niveau des États. Doit être fait de toute façon. Donc ça, vous l'avez fait, c'est bien. Et c'est pareil pour le banque. On doit réformer la réserve fédérale pour en faire une banque nationale dans le sens de ce qu'avait fait Hamilton. Et ça doit être des changements permanents. Ça, c'est des éléments fondamentaux. Et c'est bien que ces choses ont été votées au niveau des États parce qu'ils créent des précédents, des points de départ pour que ce soit implémenté au plus haut. Pour l'instant, l'administration d'Obama n'a pas pris de position claire sur ces questions-là. Il faut les pousser à faire ces réformes. Parce que c'est toujours nécessaire. On a toujours les gens qui se font saisir leur appartement, leur maison. Il y a encore des banques qui sont en train de s'écrouler chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais s'écroulent régulièrement parce qu'on ne les protège pas. Donc ces réformes au niveau fédéral sont nécessaires. Et changer la réserve fédérale en un système de comme une banque nationale, je répète, comme Hamilton disait. Et faire du crédit fédéral. Donc créé par le gouvernement fédéral, dans notre constitution. Et après, vous avez toutes ces banques qui vont financer tous ces projets autorisés par la banque de la réserve fédérale. Donc vous avez besoin d'une institution qui autorise cette banque nationale à utiliser les relations, les régulations entre les banques, faire en sorte que tout ça marche comme Hamilton l'avait fait en son temps. Donc on a besoin de toutes ces relations. Donc, remplacer la réserve fédérale par un système de banque nationale. Aujourd'hui, la réserve fédérale est en banqueroute. Donc, on doit la mettre sous protection du gouvernement fédéral. Et elle doit être l'outil du gouvernement fédéral pour faire des crédits et qui va servir comme un service pour le gouvernement américain pour irriguer les banques de crédit. C'est comme ça que ça devrait marcher. Et c'est ce qu'on pourrait même proposer au niveau international, des traités de ce style-là entre différentes nations. Où chacun a ses capacités dans son propre pays. Créer un nouveau système fédéral. Et on a besoin aujourd'hui de ce nouveau système fédéral. On donne des autorisations légales de mettre en place ce type de système. Et les choses vont fonctionner de la manière dont elles le devraient. Et irriguer jusque dans les communautés, les petites PME, les PMI, dans l'ensemble du pays. Et si on va avec ça, On peut sortir de la crise. On sait pourquoi on se bat. On peut protéger l'épargne des gens. On peut protéger les banques pour pas qu'elles ferment. Et on peut protéger les petites industries. Et tout ça marche ensemble. On l'a dans notre expérience nationale que ça a marché et que ça marchera encore. Que ce type d'institutions, si elles sont bien utilisées, elles font le boulot. C'est assez simple. Et de ce point de vue-là, une décentralisation peut être efficace. Si on me donne les moyens, moi je vous dis, je vais faire ça. Il n'y a pas de souci.
Let it operate its own, still keep some supervision, see things aren't going different than you imagine.
Et tout ça est supervisé par les différentes institutions du gouvernement.
Most of the parts work automatically without conscious direction from central supervision. And what I've done in these cases is simply to specify the kind of things which done individually will fit together as individual parts and will function in a largely decentralized way.
Et quand le système est bien mis ensemble et bien cohérent, alors les choses vont fonctionner de manière naturelle, de manière décentralisée, où les choses vont s'écouler au niveau local de manière fluide pour entreprendre et développer des choses.
Donc,
la prochaine question vient de New York.
Representing you on radio programs around the country, it's something on a lot of people's mind.
Mais je sais que c'est quelque chose qui est dans la, cette question est beaucoup dans la tête des gens aujourd'hui, puisque moi-même, en parcourant les radios de ce pays, j'ai entendu beaucoup sur les menaces qui pèsent sur notre président fraîchement élu. Je pense que les menaces sont importantes. Et donc les gens qui protègent le président et ceux qui protègent la nation devraient être au courant de ça. Donc là, une question que je me posais, est-ce qu'il y a un risque également pour d'autres personnes importantes? Donc je ne sais pas si tu pourrais dire quelque chose là-dessus. Le 3 janvier 2001, avant l'inauguration de George Bush pour son premier mandat, j'ai mis en garde qu'un acte terroriste contre les États-Unis était en préparation. Je n'avais pas d'indication spécifique d'une attaque terroriste, mais comment je le savais? Parce que je savais comment je pouvais savoir que quelque chose comme le 11 septembre allait arriver. Pourquoi j'ai mis en garde contre ce type d'action sur le sol américain? Parce que je comprends le processus dans lequel on vit. Et je ne crois pas à la théorie conspirationniste qu'on entend partout. Je sais combien de présidents américains ont été assassinés, moi. Et toutes les assassinats que je connais, ou les tentatives, ont été faites par les Britanniques.
Lincoln was assassinated by the British.
Tous ont été assassinés par les Britanniques.
Some details were kept out of the public, but it was there. Who was assassinated McKinley? It was by the British.
Qui a assassiné McKinley? Les Britanniques. Pourquoi ils l'ont assassiné? Ah, pourquoi? Pour avoir Teddy Roosevelt. Pourquoi? Pour préparer le roi d'Angleterre, son intention, déjà à l'époque, d'avoir la Première Guerre mondiale. Et avec McKinley, ça ne serait jamais arrivé. Il y a eu trois choses qui ont été cruciales pour le lancement de la Première Guerre mondiale, dont l'intention était celle de la monarchie britannique. Un, c'était l'élimination du chancelier allemand Bismarck. Parce que Bismarck avait mis en garde contre l'utilisation d'une guerre dans les Balkans pour créer un conflit entre la Russie et l'Allemagne. Ça, c'était la première raison. Et Bismarck l'a dit explicitement. de refaire la guerre de 7 ans. Il a dit dans ces termes. Donc pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'était la guerre de 7 ans. Et l'histoire, ce n'est pas des actions individuelles à des moments donnés, mais c'est des institutions dans leur ensemble. Et quand vous avez comprenez comment fonctionnent les institutions, et vous savez comment créer tel type de réaction. Et l'assassinat de McKinley ensuite. C'était un patriote américain. Et son vice-président Teddy Roosevelt, pas du tout. Il était le neveu de l'ancien directeur des services de renseignement britanniques. Chez les confédérés. Ils l'ont entraîné pour ça. Ils l'ont soutenu. Et après, son successeur a été Woodrow Wilson, qui a également participé à la création du Ku Klux Klan. Et quand il était à la Maison Blanche, il a refondé lui-même le Ku Klux Klan par une cérémonie à l'intérieur même de la Maison Blanche. Donc vous avez deux caractères des agents britanniques, Teddy Roosevelt et Woodrow Wilson, qui étaient tous deux parties intégrantes d'une opération britannique à l'intérieur des États-Unis. Donc, quand vous comprenez ces choses-là, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait face à la situation le 3 janvier 2001. Vous aviez la situation d'un président qui était rien du tout. Rien du tout. Une totale création de George Shultz, qui nous avait mis en place le régime Pinochet quelques années plus tôt. Pas un bon gars. Et il a fait bien d'autres choses également, pas très jolies. C'est pas un patriote américain, c'est un agent britannique. Donc vous avez cet incompétent qui débarque à la présidence. Et que je savais la crise à l'époque. Donc ils vont essayer de contrôler la situation par un type de dictature. Comment créer les conditions de la mise en place d'une dictature aux États-Unis? En déclarant un état d'urgence. Donc, ce que j'avais dit, c'est qu'on aurait des actions terroristes sur le sol américain cette année, en 2001, qui seraient utilisées, orchestrées, comme véhicule pour faire passer des lois martiales, des lois d'urgence, par le président George Bush. Et on l'a vu en août de cette année, il y avait plein de cas qui nous parlaient d'attaques terroristes. Et après, il y a cette attaque à New York. Tout ce qu'on a vu par la suite a été mis en place pour ça, par cet événement, sous cette présidence. On a vécu dans une période de dictature sous George Bush. Et pourquoi j'ai dit ça sur la question du nouveau président, qu'il ne vivrait pas longtemps dans ce monde, c'est parce qu'on est dans une situation du même type. Et les Britanniques l'ont dit également dans leurs journaux. Il y a tous les liens de Obama avec la mafia de Chicago. Non, c'est ça que vous devez comprendre, c'est les processus, les institutions, de comment tout ça marche. Et dans certains types de situations, on a besoin de guerre. Et si dans d'autres situations, on n'a pas besoin de guerre. Des fois, on a besoin d'assassinat. Des fois, non.
So you don't operate the way these crazy people do. You operate on the basis of knowing that.
Donc, vous allez devoir agir en fonction de la compréhension des processus qui dirigent ce monde. Et comprendre que sous certaines conditions, on doit faire agir la société de telle manière. Et c'est comme ça que tout ça se passe. Vous avez un compétent président, incompétent, qui est complètement incompétent à faire face à la situation dans laquelle il va être élu. Donc certains peuvent le pousser à agir contrairement à ce qu'il a été, ou ce qu'il est. Je pense que vous pouvez commencer à prier pour lui. Mais dans la situation présente, il est inutile en termes de décideur politique. Les Britanniques essaient de contrôler les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
How do they get the necessary desired level of dictatorship to control the United States?
Donc mettre en place ce type de dictature.
Assassinate the president-elect. It solves their problem from their standpoint. Therefore, despite or because of, despite all the stories I get from various sources, especially British.
Et malgré toutes les histoires que j'ai entendues par rapport à ça, sur l'assassinat du président, oui, même de Grande-Bretagne, on dit qu'il y a des menaces très fortes de qu'il se fasse assassiner, pour pouvoir créer un chaos encore plus grand. C'est pas une question personnelle, c'est pas lui en tant que tel. C'est parce que c'est la politique qui le demande. La meilleure chose qu'on peut faire pour le défendre, c'est de dire ce que je sais et de ce que je viens de faire. Voilà, comme ça, si la chose arrive, vous pouvez dire que c'est fait par eux. Je sais, moi, ce type de gens qui pourraient faire ça. On sait qui l'a fait. Et ça, c'est la meilleure protection qu'on puisse lui donner aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il est qualifié pour être président, mais je ne souhaite surtout pas qu'il soit assassiné. À moins qu'un miracle arrive, une lumière descende du ciel sur Obama et qu'il devienne compétent pour résoudre les problèmes. C'est le meilleur espoir qu'on peut avoir pour ce gars-là aujourd'hui.
This next question is somewhat of a follow-up to the last one.
Ça suit un peu la question précédente par rapport à ce que tu viens juste de dire, de prier pour un miracle. Ça vient du Sénat italien, qui avait une motion pour un nouveau Bretton Woods qui a été introduite. Bonjour, Monsieur Larouche. Tes dernières déclarations sur Obama m'ont beaucoup surpris. C'est comme si tu voulais qu'il perde et que McCain devienne président. Je reconnais qu'Obama n'est pas parfait, comme beaucoup d'autres, et que son élection n'est pas la solution en lui-même. Mais est-ce que c'est la meilleure approche pour l'influencer à adopter ce nouveau Bretton Woods?
That does not mean you should pray to God that a miracle occurs. In that case, the best thing would be to get a better candidate, and we did have.
Non, la chose aurait été d'avoir un meilleur candidat. Mais je ne pense pas que ce meilleur candidat était John McCain.
We allow the influence.
On a autorisé l'influence d'institutions britanniques comme le plus gros trafiquant de drogue internationale, George Soros, par exemple. Bon, il avait déjà bossé pour Hitler dans le passé quand il avait 14 ans. Il y a beaucoup d'histoires sur lui. Il a adoré ce boulot. Et il a dit que ça avait déterminé toute l'attitude de sa vie. Donc il a été recruté pour ce type de boulot aujourd'hui. Donc, il l'a fait pour Hitler quand il était petit, maintenant il le fait pour l'Empire britannique. C'est le même type d'opération que toute sa politique pour la promotion de la drogue à l'échelle internationale. Donc il a commis des crimes partout dans le monde, du crime organisé. C'est ça le problème. Tout ça est orchestré. Cette nomination a été orchestrée du président élu. Tout ça, c'était orchestré. Et sans tous ces efforts de ces institutions, jamais il n'aurait été élu. Donc c'est un événement contrôlé par les Britanniques. Ce n'est pas quelqu'un qui est conscient d'être britannique, mais les événements qui l'ont poussé étaient contrôlés par les Britanniques. Beaucoup d'argent a été mis dans sa campagne, venant du trafic de drogue et d'ailleurs, pour avoir sa nomination, l'avoir élu, et empêcher n'importe quel autre candidat d'émerger. Et ça, c'était fait par le gouvernement britannique, avec George Soros jouant la partie la plus grande. Donc, on doit regarder les choses de cette manière-là. Donc, la rédemption peut arriver. Quelque chose va le frapper, l'illuminer, et ça va changer sa vie, et il va changer. Et trahir ses amis, mais c'est pas sûr. Une autre question de la Chine, qui a quelqu'un qui dirige une publication là-bas, qui avait parlé d'une de nos conférences il y a un an à Los Angeles. Donc, les travailleurs chinois sont sous-payés. Et les dirigeants chinois sont soumis à cette obligation de ne pas payer les gens. Et comme beaucoup de compagnies sont en train de tomber en banqueroute, comment on peut faire face au chômage massif qui atteint aujourd'hui la population chinoise ?
What has happened is not that the Chinese workers are underpaid, that China's underpaid. What was happening? You had a transfer of production.
Donc, il y a eu un transfert de production. C'est pas que les Chinois sont sous-payés.
In the name, that's the key point here. All right, now, what was the difference in the payment for that production? It was a vast reduction.
Il y a eu une réduction massive.
The payment in net effect to China.
Dans le paiement des individus en Chine, parce que c'était plus avantageux que de payer les gens en Chine qu'aux États-Unis. Ça, c'était l'argument de base pour la délocalisation. Mais est-ce que la population chinoise a les qualifications et les capacités infrastructurelles qui sont comparables à celles des États-Unis? D'aucune manière. Les États-Unis, l'Allemagne ont les plus hauts niveaux de qualification en matière productive du monde. Nulle part ailleurs dans le monde pourrait produire sur un temps long moins cher que les États-Unis et l'Allemagne parce qu'on a les technologies les meilleures. Mais si vous mettez la production en Chine, soi-disant parce que la Chine paie ses salariés moins cher que les États-Unis les paieraient. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
What China is getting as a nation for its production is below the actual cost of production.
C'est-à-dire que ce que gagne la Chine en faisant ça, en acceptant ça, elle gagne moins que les coûts de production nécessaires pour faire vivre sa population. L'idée des industries faites pour l'exportation.
What you save, the money you save by moving into that market is largely what you do not pay for in supporting infrastructure in the economy as a whole. So you move into a country and you don't provide the infrastructural development.
Donc si on déplace nos industries sans fournir à ces pays les capacités infrastructurelles qui sont dans nos pays, alors on ne donne pas les moyens de pouvoir payer justement leurs salariés au niveau nécessaire de production. Mais ce qu'on fait au même moment, mais également on diminue le niveau de production possible à l'intérieur de notre pays. Et la seule solution après, c'est de couper dans les infrastructures. Je vous rappelle qu'on ne peut plus avoir d'eau potable quasiment sur l'ensemble du territoire américain aujourd'hui. Parce que tout ce qui permettait en termes infrastructurels d'avoir de l'eau potable ont été diminués, coupés à cause de ces politiques de délocalisation. Et ce qu'on paye pour la production en Chine est largement en dessous du coût minimum de production nécessaire pour faire vivre ses propres salariés. C'est pas que le salarié chinois est payé moins cher que le coût nécessaire, mais c'est la Chine elle-même qui paye. Mais maintenant, la Chine est vulnérable parce qu'elle n'a pas développé ses infrastructures et son revenu national qu'elle obtient grâce à l'export n'est plus suffisant, en fait, pour payer ses salariés. Non, ils ont fait des projets utiles, les grands barrages, des choses comme ça. Mais ce n'est pas assez. Ils ont une des populations les plus grandes sur cette planète. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire à l'échelle mondiale, il y a une sorte de choc, une onde de choc, où on a baissé partout le niveau de production, de coût de production de l'ensemble de la production mondiale. Et on doit augmenter justement les coûts de production en augmentant le développement infrastructurel autour de ces communautés qui produisent.
Such as the slum laws and whatnot. Cut that kind of production, that kind of payment, and realize what the real costs of production are. And
et on doit réaliser ce que c'est vraiment que le coût de production d'un produit.
Methods of increase of productive powers of labor, productivity, physical productivity per capita.
Et de mesurer la capacité de production physique par habitant par mètre carré pour vraiment déterminer un vrai coût de production, de production. Et on n'a jamais fait ça. Mais on est retourné sans cesse à du travail moins cher, payé moins cher, payé moins cher. Donc on a recherché partout les emplois pas chers. On les a ruinés pour ça. Au lieu de développer les infrastructures qui auraient permis d'augmenter les coûts de production. Depuis 1967-68, aux États-Unis, les États-Unis n'ont fait que perdre de l'argent. C'était des coupures constantes dans les infrastructures. Et depuis ce temps-là, aux États-Unis, on a travaillé à perte en termes physiques de l'économie. Jusqu'à aujourd'hui, on a perdu nos infrastructures, on a des pertes dans les manufactures, dans toutes les catégories de l'économie, on a perdu des pertes massives. Regardez dans la santé. Des pertes dans tous les domaines. Donc on doit augmenter la productivité du monde en augmentant les prix au détriment des politiques monétaristes qu'on a adoptées. Et augmenter l'investissement dans la technologie et l'intensité capitalistique pour augmenter la production physique par des capacités technologiques plus élevées. Et on doit faire ça. On doit revenir à ça. On a besoin de l'énergie nucléaire, par exemple. Donnez-nous l'énergie nucléaire à grand échec pour augmenter la productivité générale au niveau mondial. Donnez de l'eau potable. Revenir à un système de transport de masse. Abandonner le système d'autoroute. On va réduire les coûts de transport partout sur cette planète. Les gens qui passent des heures détruisant leur vie de famille parce qu'ils passent des heures sur des autoroutes embouchonnées pour aller travailler le matin et rentrer chez eux le soir. Pas simplement le voir d'un point de vue du coût, mais également le voir d'un point de vue d'un ensemble de ce système. Tout ce qui est nécessaire à la population va être mis en place. Et à ce moment-là, on pourra augmenter le niveau des salaires en augmentant la capacité de production de ces nations. Et donc avoir des meilleurs salaires pour ses salariés. Et c'est ça, l'accord avec la Chine, la Russie et l'Inde, faire des accords du type rooseveltien à long terme, des accords à long terme, et alors on pourra mettre en place tous ces projets. Parce qu'aujourd'hui, c'est chaotique. Les États-Unis peuvent aider la Chine, et on devrait le faire. Mais on doit aller vers cette idée de gain élevé en production, en productivité. Alors, il y a beaucoup de questions qui montrent l'urgence dans laquelle on est et qui demandent aussi ce que Lynn va faire, ce que Lynn peut faire. Lynn, Don LaRouche, fait son travail. Et je voudrais dire aux gens que vous avez aussi une responsabilité, c'est pas que Lyndon LaRouche. Le LaRouche PAC va faire son travail, il fait son travail. Nous sortons de nombreuses vidéos sur notre site pour rendre explicable, expliquer ces politiques. Mais lorsqu'on parle d'urgence, n'attendez pas qu'il y ait des forces magiques, comme par exemple Michelle Obama qui va avoir des discussions fantastiques avec Barack, que Barack va devenir un super-héros. Ça va pas se passer comme ça. On a besoin que les gens qui sont dans cette salle et les gens qui nous écoutent agissent et diffusent ces idées et se battent pour ces idées. Voilà, donc ça aurait été une négligence de ma part si je n'avais pas fait cette précision par rapport à toutes les questions que je reçois, que nous recevons. La prochaine question nous vient d'un banquier économiste du sud-est des États-Unis. Au sujet de la politique des taux d'intérêt, il suit de près pour voir quand est-ce que l'hyperinflation va se déclencher. Il regardait ça, puis d'un coup, les prix se sont effondrés. Donc, il voulait te demander, au sujet des plans de renflouement ou de leur mise en place ou non, si on est toujours sur ce chemin de l'hyperinflation. Oui, bien sûr. Il y a deux tendances différentes. À un certain niveau, au niveau du gouvernement américain, tout est fait pour manipuler les prix politiquement. Ça, c'est le court terme, mais à long terme, il y a le problème réel. Parce qu'on a des millions de milliards de dollars de dettes financières. Aujourd'hui, les hedge funds sont absolument très exposés. Et ils essaient de trouver quelqu'un pour payer cette dette. Donc ça va empirer à ce niveau-là. Et on est sur le point d'avoir une tempête sans précédent.
You will find that you have a terrified Secretary of the Treasury, Paulson, who's sitting there in absolute terror. I don't know what he's doing in his pants, but I do know what I see on his face.
Et Henry Paulson, le secrétaire au Trésor, agit sous la terreur de ces milieux. Ça se voit sur son visage. Et on est intrinsèquement dans une situation hyperinflationniste, même si on passe par un stade déflationniste.
Consider the rate of bank, the rate of collapse.
Ce qu'il faut voir, c'est l'accélération de l'effondrement.
That you're going to go into absolute disintegration of the world economy.
On s'approche d'une désintégration totale de l'économie américaine. Et pour maintenir le système, ou pour tenter de le maintenir, nous allons entrer dans une logique à la Weimar, où on va imprimer massivement pour essayer de sauver le système.
One of the two. Now you're getting the hyperdeflationary blow up. How? You have a collapse of trade. Why a collapse of trade? Well, trade is not exactly.
On voit aujourd'hui un effondrement des échanges. C'est pas les échanges en tant que tels qui s'effondrent, c'est les lettres de crédit qui ne sont plus émises. Ça veut dire c'est que de transporter par bateau d'un endroit à l'autre n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de lettre de crédit. Parce que le produit a été produit, l'acheteur l'a acheté, mais on ne peut plus les transporter. Donc on ne peut plus faire transporter les marchandises.
Because they're not getting the credit form of letter of credit or equivalent is required to ship those goods.
Il n'y a plus la lettre de crédit qui garantit, qui permet en fait le transport.
It's not that the goods aren't produced to be shipped; they are being produced to be shipped. There's a contract between the buyer and seller, but the goods aren't being shipped. No letter of credit. The letter of credit system has collapsed. So you're getting these kinds of complications in which everything.
Donc c'est ce genre de complications qui touche tous les domaines de l'économie, qui représente ce qu'est une désintégration totale de l'économie. Je vous donne une idée.
You've got an actually deflationary process as a result.
Donc en ce moment, on a une sorte de déflation à cause de l'effondrement de la production. Mais il y a ce processus de renflouement des dettes financières sur le plus long terme. Et le moteur de l'hyperinflation, c'est l'effondrement du marché des dérivés. Il faut regarder l'ensemble du système, pas les détails, les parties du système. Car le moteur de la crise, c'est l'effondrement du marché des dérivés.
Simply a reflection of an environment in which the financial derivatives factor debt is the main driver.
We have a question from the audience from someone who's visiting from Denmark, Farida Gillisberg.
On a une question ici dans la salle de Farida Gillisberg qui nous vient du Danemark, qui demande au sujet de l'Europe, quelle est la capacité d'action de l'Europe aujourd'hui dans cette situation et la relation et les différences entre le système présidentiel américain et le système parlementaire européen. Ben regardez, l'Europe, les nations d'Europe ne sont plus indépendantes. Politiquement, ils ne contrôlent plus rien. Ils ne sont pas autorisés à avoir un pouvoir.
You go to Trichet. It's a waste of time.
Aujourd'hui, pour faire quelque chose, il faudra aller voir Trichet, mais ça ne sert à rien. L'Europe a abandonné sa souveraineté en tant que groupe de nations.
The tendency now.
Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça.
People to ignore the Maastricht agreements.
Parce qu'aujourd'hui, déjà, on voit que le traité de Maastricht est absolument ignoré par les gouvernements.
burst out laughing.
Et maintenant, quand Trichet rentre dans un dans une pièce, tout le monde rigole. Parce qu'ils sont discrédités. Ils n'ont aucune solution à ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas un facteur dans les décisions qui sont prises. Il y a, d'une certaine manière, une relation entre la Russie et la France, et Sarkozy. Là, il y a une connexion importante. Et Sarkozy menace de jouer un rôle indépendant et dans une certaine mesure. C'est ce qu'il commence à faire. Je ne comprends pas forcément l'ampleur de tout ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il fait. Et c'est le seul chef d'État en Europe continentale, en dehors de la Russie, qui a un poids, une importance dans cette situation.
Let's assume, under what condition would he play a role? If Russia, India, China,
si la Russie, l'Inde et la Chine décident de se rapprocher des États-Unis pour faire les réformes que j'ai indiquées, alors le rôle de Sarkozy en Europe va devenir crucial.
But short of that potential which is lies with Sarkozy, and Sarkozy could be a factor.
Mais le potentiel que représente Sarkozy peut être un facteur pour réaliser cette chose. Et à part Sarkozy, il n'y a aucun autre gouvernement en Europe de l'Ouest, en Europe, qui puisse initier quoi que ce soit. Et le rôle de Sarkozy sera un rôle de catalyseur pour initier certaines choses, pour poser certaines choses. Et dans le cadre d'une interaction entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Parce que c'est cette relation dont on a besoin pour briser les règles du jeu. C'est cette alliance qui fera changer les choses. Et à ce moment-là, l'Europe, soudainement, pourra changer. Mais pour l'instant, je ne vois pas possibilité que l'Europe joue un rôle déterminant. États-Unis, Russie, Chine, Inde doivent être mis ensemble, d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, d'autres pays peuvent jouer un rôle en influençant ces accords. Mais ils ne pourront, ils n'ont pas la capacité de les initier. Et la France, avec Sarkozy, est le seul autre pays que je vois en Europe jouer un rôle important sur ce groupe, sur cette alliance.
Je suis
assez impressionné du flot de questions qui vient du monde entier. Il y a beaucoup de rassemblements en Amérique du Sud, dans les universités ou ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup en Europe, en Allemagne, à Paris, ailleurs en France. Il y a aussi dans les universités du Texas, à Houston, sur la côte ouest également. Et beaucoup de questions viennent de ces rassemblements. Et si vos questions aujourd'hui n'ont pas été répondues ou posées, elles seront probablement répondues. Quelqu'un donc qui est un artiste en Europe, qui discute beaucoup de ces choses-là dans le milieu dans lequel il est, et qui soutient l'idée justement d'une renaissance artistique dans le cadre de ces changements. Quel conseil tu pourrais donner à un artiste classique dans ce monde post-moderne? Est-ce qu'il y a
encore des gens qui sont prêts à écouter une musique réellement classique et à soutenir cette approche. Quel domaine devrait être aujourd'hui exploré dans l'art et dans la peinture?
And as our Renaissance project might go on for generations, we ask for your advice that we may lay the right foundations.
Et donc, pour poser les bonnes fondations d'une Renaissance qui, si elle avait lieu, durerait des siècles, nous voulons te poser cette question.
Which has just been published in EIR and will be available in other locations. On the subject of mathematics is not science.
Je voudrais soulever un sujet sur lequel j'ai écrit récemment. Sur le fait que les mathématiques ne sont pas une science physique. Aujourd'hui, on détermine la science par les maths. Alors que c'est la science physique qui a créé les mathématiques. Qu'on voit dans le cas de Kepler, de sa découverte de la gravité universelle. C'est ce que Einstein a souligné de ce travail. C'est ce qu'a repris Bernard Riemann, le physicien du 19e siècle. C'est que les principes physiques sont en dehors des maths et échappent aux mathématiques. Le principe de création artistique, de créativité artistique, et notamment dans le cas des tragédies classiques, il n'y a pas de héros individuel ou d'individu tragique, en tout cas dans la tragédie classique. Ce n'est pas au sujet d'une personne, les tragédies classiques, les drames.
And take all the histories of classical drama, start it with from what we know in European history.
Et regardez depuis le début de la tragédie classique.
Attributed to Homer.
Avec donc les écrits de Homer.
That is the model for European classical drama.
Ça, c'est le modèle de base de la tragédie classique européenne. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Iliade de Homer?
Who acts in most cases as an individual hero. All the gods and semi-gods are.
Tous les dieux et les demi-dieux.
And the poor people.
Se comportent comme des sots. Et les gens écoutent les avis de ces dieux et de ces demi-dieux.
And so you have a slaughter. Now you take the entirety of Greek tragedy, classical Greek tragedy, is modeled on this Iliad model.
Et donc toute la tragédie grecque est modelée sur l'Iliade, où les gens se fient à des voix extérieures, à des messages mystérieux, et se fient à ce qu'ils entendent, ou ce qu'ils pensent entendre.
This sort of thing. And therefore, the principle of classical drama is simply there is no tragic hero.
Donc la tragédie classique, dans la tragédie classique, il n'y a pas de héros tragique.
That's simply romantic nonsense.
Ça, c'est une conception romantique de la chose. Ça n'a aucun sens.
It will disgust me. The tragedy lies in the fact that the society whispers to imagined gods.
La tragédie, c'est la société qui est incapable d'agir rationnellement et qui préfère écouter les chuchotements des dieux. Ils disent, oh, on ne peut pas faire ça, oh, on ferait mieux de ne pas faire ça. Non, fais pas ça, fais pas ça, s'il te plaît, fais pas ça. Où la société est complètement piégée, comme s'il y avait une sorte de barrière, de clôture électrique qui déterminait leur comportement. Et le facteur intéressant, c'est l'individu qui va dire il y en a assez de ça, et qui va faire en sorte de briser ces clôtures. Et le héros va sauver la société d'elle-même.
The president, no matter how talented otherwise, is a damned fool who listens to the whisperings.
Et le problème de tous les derniers présidents qu'on a eu aux États-Unis, c'est qu'ils se comportent comme des sots parce qu'ils écoutent justement ces chuchotements, ces rumeurs des dieux.
Don't you realize I wouldn't dare do that? You're foolish to say I would do that. No, I can't do that. Boom, Christ.
Tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Si je veux faire, non, tu peux pas faire ça. Et bam, la catastrophe arrive.
Yes, but the tragic case does not. Not as an individual. The hero is one who is able to convince a society as role.
Il y a des héros individuels. En termes de solutions, ça va être l'individu qui va confronter les blocages de la société.
Without regard to foolish fears.
Et qui va faire ce qui est nécessaire sans prêter garde à ces rumeurs, à ces chuchotements, à cette barrière psychologique. Mais ce qui est tragique, c'est la société en tant que telle. Les gens qui écoutent les chuchotements. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu ferais mieux de ne pas faire ça. Tu sais, tout le monde sait que c'est une très mauvaise idée. Et tu auras des problèmes. Et suivre ces avis sans cesse, ces opinions, c'est ça qui tue une société. Il n'y a pas d'individu tragique.
In Schiller, Wallenstein.
Et dans le Wallenstein de Schiller, Wallenstein, la pièce est une tragédie, mais Wallenstein n'est pas lui-même une figure tragique.
Outside the framework of what he's been given.
Et c'est juste qu'il est incapable d'atteindre une solution qui est en dehors de ce qu'il conçoit.
The assembly of this vast army to engage in what is going to become a religious warfare, which is going to destroy everything.
Car il y a une guerre de religion qui est sur le point de commencer et qui va tout détruire.
Death of Wallenstein. But the 30 Years' War didn't end there. And Schiller wrote this thing based on his studies not only of the 30 Years' War, but also his studies on the Netherlands War before it.
Et donc Wallenstein sera incapable d'empêcher ça, alors qu'il avait l'occasion, mais c'est une dynamique qui devenait inévitable. Et Schiller a basé cette pièce sur une étude historique précise pour montrer que c'était la manière dont agissait la société qui la condamnait et ce n'était pas les individus en tant que tels, le comportement des individus en tant que tels. Mais que les individus suivaient cette logique de la société. Et c'est ce qu'on a eu avec avec la plupart des présidents américains. Ce qui les rendait tragiques, c'est qu'ils écoutaient les puissances et les rumeurs, les opinions qui contrôlaient le pays. Et qu'ils écoutaient toujours les voix qui leur disaient de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela.
Et
qui obéissaient finalement à la peur.
What real drama is concerned about? The greatest dramatists are not some bum imagining stories in an attic. There are people who are looking at reality, as in great poetry, other great drama.
La vraie tragédie, c'est pas issu de fantasmes, c'est faire face à la réalité. Et d'essayer de montrer, chez l'auteur veut montrer à la population la tragédie dans laquelle elle est.
Is to give you a sense of coming out of a society which is frightening to you. As a member of an audience, you walk in. You're dealing with a situation you can't understand. You can't solve it. And if the dramatist does a good job and the actors do a good
job. Quand on est dans ce genre de situation où on ne trouve pas la solution, une tragédie a un rôle pour éveiller un potentiel de solution chez les individus.
Situations in life which maybe you can deal with.
Ça s'applique à de nombreuses situations de la vie.
And so that is the relationship. That's science.
Ça, c'est une question scientifique. Parce que les hommes tentent de maîtriser l'univers, comme dans le premier chapitre de la Genèse. Et l'être humain est unique dans sa capacité à comprendre ces processus de création.
As ministers to change the process in a necessary way down the line.
Et l'homme est capable de modifier et d'améliorer ce processus de découverte, de comprendre la nature, de comprendre les lois,
qui régissent l'univers et de modifier notre vie. Donc, toute la question, c'est le changement. C'est ce qu'a fait Roosevelt, c'est ce qu'a fait Lincoln, c'est ce qu'a fait George Washington, c'est ce qu'a fait John Quincy Adams. Bismarck, à sa manière. Lazare Carnot était un héros. Il n'a pas échoué dans ce qu'il a fait. Il y a de grands scientifiques qui ont été des grands héros parce qu'ils ont réussi à accomplir quelque chose de crucial. Ils ont relevé certains défis cruciaux.
He had that quality that nobody else around him had, unique. He was a true hero. And this is what we try to understand from tragedy.
And we have the same enseignement que l'on doit tirer de la tragédie.
As toward classical art, the same attitude toward.
C'est la même idée derrière l'art classique.
So the two are.
Sur l'étude de la manière dont l'univers s'organise et change.
And this involves going to a higher state of mind than, like the questioner is talking about a group of people. They have a certain amount of skill. Can they make the next step? Yes, good, fine. You know this, you know that, you've learned this, you know that. Can you actually understand the kind of thing you're talking about as it applies to real life? Can you actually understand? And that's the challenge. It's the same challenge as physical science. And the best thing, I mean, classical drama is one of the best. For example, I said recently in this piece, referred to the last paragraph in Shelley's In Defense of Poetry. There's a summation of the state of mind which the individual must have.
Donc, as a creative, Shelley, le poète,
similar aspect about it, to understand society. And to understand what you have to do to try to influence society to solve its problems.
Soulève cette question de qu'est-ce que l'individu peut faire pour influencer la société et pour engendrer un changement. Et par exemple, regardez Rembrandt.
That sort of thing. This is what you must see. And you must think of yourself as comparable to a scientist in art. Of trying to understand mankind better.
Et un artiste, un véritable artiste, essaye de comprendre l'humanité.
What makes them great artists? What's great about Leonardo da Vinci apart from his scientific?
Qu'est-ce qui est exceptionnel chez Léonard de Vinci?
This is the sort of thing. And it's
cette question.
The question is, come out of the experience feeling good about yourself.
Et l'art n'a rien à voir avec se sentir bien. Mais de se sentir bien dans le sens où on comprend l'humanité et on contribue à cela.
Et
en réalité, il n'y a pas de différence entre l'art et la science.
With that, we're going to bring the webcast to a close.
Donc on va arriver à la fin de ce webcast. Il sera archivé sur le site internet larouchepac.com. Et faites en sorte que toutes les personnes de ce pays le voient. Donc je vous demande de me rejoindre pour l'applaudir et le remercier pour ce qu'il a fait ce soir.